Votre radio en région, Bugey Radio.
9h, 11h, entre nous, Sandrine Donzel sur Bugey Radio.
Et bonjour Sandrine, comment ça va ?
Bonjour Olivier, mais ça va bien ? Dans le froid, écoute, et sous la neige ?
Moi je me sens bien.
Bah oui, t'as lâchement abandonné ta petite puce ce matin.
Eh ouais, voilà, le premier jour de crèche, mais c'est comme ça, hein, qu'est-ce que tu veux ?
Dur, dur.
Autrement. Ouais, un petit peu.
Bah ouais, j'imagine, et pour sa maman aussi, ça peut
ouais,
être
beaucoup
facile.
Plus même.
La reprise du travail. Bon !
Alors
bon. Ben, déjà, on va peut-être dire bonjour à tout le monde.
Déjà, bonjour, chères auditrices et chers auditeurs.
Qui êtes là, qui nous écoutez pour cette émission qui va
Exactement.
Porter sur un thème dont on parle depuis longtemps, Olivier.
Oui.
Hein
le, oui.
Quasiment
depuis la
première émission,
alors,
je crois.
Même si j'ai suivi un petit peu ces derniers jours ce que tu m'envoyais à chaque fois comme préparation, bon, j'aurais pu me douter de quelque chose quand même sans ça.
Mais ça fait longtemps qu'on en parle.
Ouais.
Et parce que je trouve que c'est un thème qui est hyper intéressant et
oui.
hyper important.
Et donc le thème est ?
Et le thème est sexe, genre et stéréotypes.
Et stéréotypes.
Et alors j'ai mis une petite question parce que mon idée c'est aussi ça. J'aimerais qu'on reprécise un peu mm-hmm. quelques idées, quelques définitions par rapport à ces termes qui parfois créent un peu de confusion.
Oui.
Et puis j'aimerais aussi que peut-être on puisse répondre à une question qui est est-ce qu'on peut arriver à l'égalité homme-femme
oui.
sans nier nos identités ? Parce que mm-hmm. c'est souvent ça la remarque qui est faite, oui l'égalité mais on n'est pas pareil, donc mm-hmm. je voudrais qu'on explore un petit peu tout ça.
Oui.
Est-ce qu'on okay. est pareil, est-ce qu'on n'est pas pareil et comment on peut gérer toutes ces choses-là ?
D'accord.
Donc... Je pense que c'est un domaine qui nous concerne tous.
Oui,
enfin, je sais pas ce que
oui,
t'en penses.
Un petit peu quand même. On est tous soit hommes, soit femmes déjà.
Mais c'est ça. Mais c'est surtout que tous ces sujets autour de l'égalité homme-femme,
oui.
autour de la façon...
On a des relations avec tout le monde. Voilà, il faut, quand on parle, peu importe. Hein,
c'est
on
ça.
On est pas obligé de...
Et ça a des impacts sur la vie professionnelle.
Oui.
Pour les femmes, mais pas que pour les femmes. On mm-hmm. en parlera tout à l'heure. Ça a des impacts aussi sur la vie personnelle, évidemment.
Oui, obligé.
Notamment parce que... Assez souvent, on est en couple homme-femme,
ben,
même
oui,
s'il y a d'autres
ça,
formes de
ça
couple.
Ça arrive souvent, mais oui.
Mais voilà. Et aussi parce qu'on éduque des enfants et qu'on peut être confronté à ces questions-là au travers de l'école, ouais. au travers de leurs activités. Enfin voilà, donc ça nous concerne vraiment chacun de nous. C'est aussi une question qui se rapporte à notre identité, à qui on est.
C'est ça.
Donc c'est quand même un vaste sujet.
Ah, c'est très très vaste hein, quand même, ouais. Mais là, j'ai hâte d'entendre tout ça, moi.
Donc voilà, on va explorer ça. On va explorer un peu les définitions,
ouais.
on va explorer les impacts de tout ça dans la vie professionnelle, mm-hmm. dans un premier temps. Après, on parlera de la vie de couple. Mm-hmm. Et puis, la dernière partie de l'émission, elle sera plus sur justement l'éducation des enfants, comment ça se construit, ça.
Voilà, on aura le défilé. Et puis à la fin, on aura vraiment l'évolution, la croissance de ça, comment ça marche, comment
Exactement,
ça
c'est tout à fait ça.
Ok.
On va avoir des invités.
Oui, alors l'invité du mois qui sera... Alors, qui seront ?
Oui, on a deux
invités.
Alors que vous n'aurez pas le plaisir de voir, si vous êtes connecté sur Bugey TV, vous pouvez nous voir en direct.
Et oui.
Là, je fais coucou. Hein, voyez. Vous allez pouvoir me voir danser pendant les pauses musicales. Vous allez voir, c'est trop bien. Donc, on a deux invités du mois.
Oui.
On a d'abord Christelle Bresse, qui est une linguiste et qui intervient sur tous les sujets d'égalité des chances.
D'accord.
Qui est notamment enseignante et coordinatrice sur des diplômes interuniversitaires sur ce domaine-là.
D'accord.
Voilà, l'égalité homme-femme et tout ça. Mais je vous repréciserai ça tout à l'heure. Donc ça, c'est la première intervenante.
Okay.
Et puis, quand on abordera l'impact sur la vie professionnelle, mm-hmm. on aura aussi une spécialiste du sujet qui est Cécile Vandamme-Martin,
oui.
qui est consultante et qui intervient en entreprise sur ces sujets. Et puis, on en profitera aussi pour faire un petit coucou à Claire hein, du site Égalimère qui m'a bien aidée à préparer cette émission.
D'accord.
Et qui m'a mise en contact avec Cécile, notamment.
Et voilà,
donc,
on en parlera. On parlera avec elle tout à l'heure, dans
oui.
quelques instants. En attendant, on commence par quoi ?
Eh bien, je ne sais plus.
Un petit peu, un petit peu de détente, c'est ça ?
On va... Oui, alors... Non, on commence par dire aux gens qu'ils peuvent poser des questions.
Voilà, voilà, on y vient. Et en plus, je l'avais en tête depuis tout à l'heure et j'oublie de te le dire. Donc, c'est vrai, les personnes qui souhaitent participer activement à cette émission, vous pouvez déjà le faire et d'une... par le numéro de téléphone, donc 04 57 29 04 18. Vous savez que désormais, vous avez le numéro de téléphone qui est affiché en gros au-dessus du site, surtout.
Ah oui !
Et oui, il est au-dessus.
Sur
voilà,
Internet.
Voilà, au plus haut du site Bugey Radio. Il est affiché en très très grand, donc vous ne pourrez pas le rater
ouais.
et ne pas nous appeler.
Sauf que si on est sur Bugey TV, il n'y est pas.
Eh ben c'est vrai. C'est tout
si
à fait ça.
Si les gens veulent nous voir, ils n'ont pas le numéro de téléphone. Mais on vous le rappellera plusieurs fois.
Mais
il n'y
a pas de problème. Mais sur Budget TV, ils ne peuvent pas nous écouter.
Ah mince,
on peut que nous regarder.
Il faut qu'ils mettent les deux alors.
Voilà, okay. Exactement. Donc il faut avoir Budget Radio. Et puis si vous voulez vraiment nous regarder, il
voilà.
n'y a pas de problème.
Vous
mais
mettez...
est-ce que tu te trouves si belle que ça et moi si beau que ça?
Non, mais c'est rigolo.
C'est juste pour rire, moi, alors
ouais,
ça va.
Ouais.
Ils vont vraiment se foutre de moi alors.
Ne prenons pas au sérieux. En plus, t'as un magnifique t-shirt rose aujourd'hui.
C'est
bien dans
c'est
le thème.
C'est rose.
C'est rose.
Rose, parce que moi je viens du sud, tu comprends?
C'est bien dans le thème.
Non, moi c'est orange.
Donc il y a le téléphone. Il y a le téléphone que tu viens de donner,
oui.
Et puis il y a le mail.
Et voilà.
contact@budgetradio.fr. Donc on a laissé tomber les questions via Facebook parce
que
voilà, les notifications n'étaient pas très fiables, on ne les avait pas au bon moment et du coup on ratait des questions.
Voilà, des fois ça arrivait en fin d'émission, c'est un peu dommage.
Bah oui, du coup on perd l'aspect un peu interactif. Donc je vous invite à nous faire part de, de vos réactions,
oui.
De vos témoignages, de vos questions sur tous les sujets qu'on
tout
va aborder. Pendant cette émission.
Et bien voilà, c'est dans quelques secondes. Donc une petite pause
musicale.
Rapide.
Mais rapide.
Et on se retrouve dans un instant. On écoute Vampire Weekend. Alors attention, je crois que ça va faire mal.
Et pendant ce temps, on va téléphoner à notre première invitée qu'on
et
aura
voilà.
tout de suite après.
On s'en occupe. On la prend hors antenne. On se retrouve dans quelques instants. Il est 10h09. Nous sommes le lundi 23 février 2015. C'est Entre nous sur Budget Radio avec Sandrine Donzel.
Votre radio. Vos émotions. Budget Radio. Budget Radio. Info, musique, culture. Tous les jours en direct, Budget Radio.
Et on reprend cette émission entre nous.
Yes.
Alors Sandrine, on a au téléphone quelqu'un.
Oui, on a quelqu'un au téléphone. Donc, c'est merveilleux, la technologie.
Donc c'est bien l'invité du mois.
C'est bien une de nos invitées du mois, qui est Christelle Bresse. Donc je l'ai invitée, je vais d'abord la présenter.
Oui, oui, oui.
Je l'ai invitée parce que justement je constate qu'il y a beaucoup de confusion autour de ces termes sexe, genre, stéréotypes et tout ça. Et que je voudrais
moi-même, le premier, j'en fais.
Voilà, mais tout le monde. Hein. Donc
bah oui.
j'ai eu envie qu'elle nous donne quelques précision. Donc Christelle, elle est docteur en linguistique.
D'accord.
Donc elle va nous expliquer en quoi la linguistique est un angle intéressant.
Oui, c'est,
pour,
ouais, c'est vrai, mais c'est, je me demande un petit peu.
Bah voilà, mais elle va nous dire. Elle est donc enseignante au sein du DIU, donc c'est un diplôme interuniversitaire, conseiller ou conseillère référent ou référente sur l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, qui est à Paris. Par ici, c'est Sorbonne.
D'accord.
Qui est coordinatrice du module de la construction sociale des identités féminines et masculines au sein d'un autre diplôme qui est égalité des chances entre les hommes et les femmes, pareil, Paris 6, Paris 3, et qui est conférencière, formatrice à l'égalité des chances entre les hommes, les femmes et les hommes auprès d'entreprises, d'administration et d'associations. Donc, bonjour Christelle, est-ce que j'ai bien tout résumé?
D'abord, on a le petit jingle, bien sûr.
Oui,
Sandrine Donzel, dans Entre nous, l'invité du mois.
Et donc, bonjour au téléphone.
Bonjour Christelle, est-ce que j'ai bien résumé?
C'était parfait.
Bon, super. Alors, comme je le disais à Olivier, à la base, tu es linguiste. Et autant que je sache, la linguistique, c'est la discipline qui étudie le langage, comment le langage se construit dans la société, comment il évolue et tout ça. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots en quoi la linguistique est un angle pertinent pour aborder le thème de l'égalité homme-femme?
Alors, il est pertinent pour moi dans le sens où je pratique en fait la sociolinguistique, donc dans une position qui n'est pas normative par rapport à la langue, qui est plutôt d'étudier comment le langage fonctionne. Et moi, plus précisément, ce qui m'intéressait, c'était de voir le rôle du langage dans la construction de nos identités sexuées.
D'accord, ouais.
Voilà, partant du principe, si tu veux, que le langage, c'est un des outils qui nous sert à appréhender le monde, et en fait, tu comprends le monde à travers le langage pour une grande partie, et ce langage va structurer ta façon de percevoir ce monde. Et du coup, de percevoir aussi les relations entre les hommes et les femmes, de savoir comment on se nomme. Et j'ai souvent, je dis toujours, dis-moi comment tu m'appelles, je te dirai qui tu es. L'acte de nommer, c'est réellement prendre position à l'égard de ce que tu désignes, en fait. Donc, en nous nommant, on indique à l'autre comment on aimerait être appréhendé. Et du coup, ce que je trouvais intéressant, c'était de voir comment on nomme les hommes et les femmes dans un système linguistique particulier.
Okay.
Et ce que ça peut avoir comme impact sur la représentation qu'on a des hommes et des femmes.
D'accord. Effectivement, donc en fait, ce qui se passe, si je résume tout ça, c'est que la façon dont on parle, dont on nomme les choses, a un impact sur la façon dont on les voit. et bien probablement sûr. Aussi vice-versa. Enfin, c'est un peu ça.
Oui, bien sûr, c'est une double articulation, de tout à fait raison. Ouais. Ça va dans les deux sens. Donc, à la fois, ça nous construit, et en même temps, on peut avoir une action sur ce langage.
Oui, on peut changer son langage.
Je vous interromps. Est-ce que ce serait possible que vous mettiez proche d'une fenêtre, par exemple, ou quelque chose comme ça? Pas pour sauter, comme je dis d'habitude, non. Mais vraiment pour...
Parce qu'on a une qualité de son qui est pas top.
Pas bonne.
Ouais.
Donc, est-ce que ça va mieux là?
Ouais,
oui,
ça a l'air.
Voilà. Ça me fait juste penser en aparté à cette histoire du nombre de mots que ont les Inuits, je crois, pour désigner la neige.
Ah oui.
Oui, ça c'est un grand classique. En fait, c'est l'idée de dire que ton vocabulaire, le lexique d'une langue, ouais. traduit justement la représentation qu'il a de son monde et que tu as des mots qui viennent nommer une réalité dont tu as besoin.
Oui, c'est ça.
Donc a priori, en langue française, par exemple, on aura besoin d'un moins grand lexique pour désigner le blanc de la neige que les Inuits, pour qui ça a une importance plus importante dans leur vie quotidienne.
Ok. Donc on est un peu dans ce même registre pour ce qui concerne les différences entre hommes et femmes, c'est-à-dire
oui, bien
que...
sûr, bien ouais. sûr. Bien
ok.
Sûr.
Ouais. Alors, le premier thème, maintenant qu'on a mieux compris en quoi c'était pertinent d'utiliser la linguistique pour faire ça, le premier thème dont je voulais parler avec toi, c'était aussi de la difficulté, je parlais de donner des définitions sur sexe, genre, ouais. stéréotypes, tout ça, la difficulté de donner une définition. Parce que sexe, ouais. par exemple, ça n'a l'air de rien, ça a l'air facile à définir.
Bah oui, on se dit le sexe, c'est du sexe, quoi.
C'est, voilà.
Non, mais ah, oui, en tant qu'homme, on pense ça.
Ce serait merveilleux, mais non, c'est compliqué. Effectivement, c'est pas que ce soit compliqué, c'est que ce soit complexe, en fait. Donc, forcément, moi, en tant que linguiste, j'accorde énormément d'importance au sens des mots. Mmh. Et on voit que ce sens des mots, il se négocie, en fait, en contexte. Il faut toujours définir ce qu'on entend par tel ou tel mot. Alors, ça paraît moins compliqué quand tu dois parler d'une table où on arrive relativement facilement à dire en quoi ça consiste,
oui.
à quoi ça renvoie.
Si on dit table, on a tous à peu près la même image voilà. dans la tête. Quoi.
Ouais. Ouais. C'est bizarre cas, parce c'est... que vous parlez de table et on parlait de sexe, et éventuellement, oui. l'homme lambda...
associe les deux.
Associe, voilà, on se dit, bon, ça
mais
peut
les femmes passer, aussi, ouais. hein, je te rassure.
Ah, les femmes aussi
oui.
Ah, voilà, on va en parler
ouais,
de ça.
Ouais,
ça me rassure, du coup.
Non, mais du coup, pour les termes plus conceptuels, qui renvoient plus à des notions, des concepts, c'est un ouais. peu plus complexe.
Ouais.
Et du coup, pour le terme sexe, il y a une grande difficulté, surtout quand on travaille sur ces questions en termes d'égalité, de définition de ce que c'est qu'être un homme ou une femme. Est-ce qu'on renvoie au sexe, au genre? Quelles sont les distinctions entre ces deux termes? Pourquoi il existe ces deux termes? Et on va... Moi, ce que je peux vous apporter comme élément de réflexion, pas de réponse, hein, parce que j'ai pas coutume de dire ce qu'il faut penser, mais je donne des éléments permettant d'élaborer une réflexion, c'est que le mot sexe, il est polysémique dans le sens où, dans la langue scientifique et dans la langue commune, il n'a pas forcément les mêmes sens. D'ailleurs, on voit bien que si on se dit que sexe, ça renvoie à l'anatomie, au biologique, on voit bien que dans le langage, par exemple, on parle de le sexe faible, la guerre des sexes, et on n'est pas sur de l'anatomie, là.
Oui, non. Ouais.
C'est,
ouais, voilà.
C'est psycho, là. C'est...
Ouais. Ouais, oui, complètement. Donc, du coup, en fait, on prend ce terme, on considère la partie pour le tout. Le sexe anatomique comme signe extérieur, en fait, qui devient, du coup, le principe d'identification des hommes et des femmes.
Oui, c'est une sorte de résumé, d'une certaine manière, mais
ouais,
qui
voilà.
du coup, quand
ouais,
on résume, coup... est incomplet, quoi.
Ouais, complètement. Et du coup, on peut aussi se poser la question, si on reste purement dans le champ de l'anatomie, par exemple, quand vous disiez, vous écoutez en début d'introduction de l'émission, on est tous soit un homme, soit une femme. Moi, je me dis, est-ce que vous en êtes vraiment sûr?
Moi, je suis sûr et certain d'être au moins un homme ou une femme.
Je suis assez d'accord. Mais Christelle, je pense que je vois un peu où tu veux en venir. C'est vrai qu'on a l'impression, c'est pour ça que j'ai choisi le sexe pour démarrer cette émission, non pas par provocation, mais parce qu'effectivement, on a l'impression que les choses sont tranchées biologiquement parlant, c'est-à-dire qu'il y aurait des mâles et des femelles, en gros, hein, on va plutôt dire ça.
Ouais.
Et en réalité, c'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que l'immense majorité des gens sont effectivement mâle ou femelle, c'est-à-dire avec un génome, des gènes mâle ou femelle, avec des organes.
Je crois qu'il vaut mieux dire masculin ou féminin.
Mais non, justement, des organes.
Justement,
non, justement, parce que je parle biologiquement.
C'est pas la même chose.
D'accord. D'accord.
Parce qu'en fait, si on regarde du point de vue biologique, si on regarde historiquement, on a fait des recherches sur la détermination du vrai, je mets le vrai entre guillemets, vrai sexe d'une personne. Et donc, on va se baser sur quoi ? Sur plusieurs critères, dont l'anatomie, donc on va dire le pénis-vagin, d'accord ?
Les organes sexuels, en gros.
Voilà. Les gonades, c'est-à-dire les testicules ovaires. Okay. Les hormones, donc testostérone, oestrogène, l'ADN, ça va être les chromosomes X, Y, XX, et puis plus récemment, l'organisation du cerveau humain.
Okay.
Mais en fait, chacun de ces marqueurs scientifiques, ils ne permettent pas de donner une définition sûre et stable du sexe. Parce qu'en fait, on se rend compte que selon les cas, il y a chez des individus qui vont réunir certains de ces critères et pas d'autres. Donc, c'est le cas, par exemple, si je prends l'extrême, si on prend le cas des intersexués, par exemple, qui concerne certes une minorité de personnes sur l'ensemble d'une communauté, mais qui existe. Et on va rencontrer cette difficulté aussi, notamment ces cas lors de couples hétérosexuels qui souhaitent avoir des enfants, qui ne parviennent pas à avoir des enfants. On va faire une analyse chromosomique et on va se rendre compte que ils sont pas sûrs. Ce mode binaire du X, Y,
Oui, ça c'est important de le préciser parce que la plupart des gens ne le savent pas, c'est-à-dire qu'il peut arriver qu'on ait des chromosomes X, Y, c'est-à-dire féminins, c'est ça hein
Enfin,
voilà,
non, c'est masculin.
C'est masculin, voilà. On peut avoir des chromosomes X, Y et avoir des organes sexuels masculins.
Exactement.
Et l'inverse.
Exactement.
C'est étrange.
Exactement.
Oui,
c'est
mais
vraiment étrange,
C'est étrange, mais
c'est la réalité.
C'est la nature.
Donc, tout ça pour dire qu'effectivement, définir si on est de sexe mâle ou de sexe femelle n'est pas aussi simple que ça.
C'est pas aussi simple. D'accord. Et en plus, la combinaison de ces critères, donc ce que je viens de vous énoncer, elle varie dans l'histoire et selon les sociétés. Je vais vous citer un cas, vraiment, je sais pas si vous vous rappelez, lors des Jeux Olympiques, par exemple, où la grande question, c'était pour certaines femmes qui concouraient donc dans la catégorie femmes, où on n'était pas certaines certains de leur sexe. Et donc, il était nécessaire de prouver ce sexe. Ben, jusqu'en 68, il suffisait pour ces femmes, ces individus, de défiler nues devant le comité pour attester qu'elles étaient bien des femmes.
C'est
donc,
cool.
On mettait en avant les critères sexuels secondaires, à savoir les seins, pour déterminer que oui, elles sont bien des femmes. Et puis après, on s'est rendu compte, peut-être qu'il faudrait des preuves un peu plus scientifiques. Donc, on est parti sur les chromosomes. Mais donc, il y a une variabilité historique de la définition des critères permettant de définir le vrai, encore une fois, entre guillemets, le vrai sexe.
Oui, un certain sexe, en tout cas.
Oui.
Mais c'est vrai que je trouve que c'est particulièrement important de montrer ça parce que du coup, ça explique aussi parfois certaines confusions qu'on peut faire.
Là, oui.
Olivier,
oui, je reste
Baba.
Un petit peu bouche bée.
Bouche bée.
C'est étrange.
Ouais. Et du coup, c'est vrai que, quand tu dis Sandrine, cette appartenance sexuée, c'est-à-dire la capacité de dire je suis un homme ou je suis une femme, est hyper importante dans notre culture, dans notre construction individuelle. Et elle naît dans le rapport qu'on a aux autres. C'est-à-dire qu'on est très gêné quand on se retrouve face à une personne dont on ne parvient pas à déterminer le sexe. Mais dans une relation sociale.
Par contre, on vous entend toujours très mal.
Oui, il y a des moments où on t'entend très mal. Ce qu'on a entendu. Ce que j'ai entendu, c'est que effectivement, on est un peu gêné, déstabilisé quand on se retrouve face à quelqu'un dont on n'arrive pas à déterminer le
c'est
sexe.
C'est un peu compliqué, c'est vrai,
Mais oui.
Et
parce
ça
que...
démontre l'importance pour nous de mettre une personne dans un des deux sexes, en fait. On ne parvient pas à accepter. On ne parvient pas à s'assurer du sexe de quelqu'un. C'est prégnant.
Vas-y Olivier, je crois que tu avais une question.
Non, mais oui, c'est vrai que c'est compliqué. Puis je pense que pour la personne, du coup, ça doit être encore plus gênant. Enfin, on s'imagine que c'est gênant. Ça peut ne pas l'être, et effectivement, il y en a qui ne sont pas gênés de ça, qui comprennent. Ça leur arrive très souvent. C'est vrai que pour nous, on se sent tellement embêté parce qu'on on s'avance, on ne va pas dire bonjour madame, bonjour monsieur. Bonjour.
D'où la linguistique,
vous
tu vois. Bonjour.
Oui, aussi.
Bonjour vous. Comment ça va?
Mais du coup, c'est intéressant ça, parce que pour moi, ça, on en arrive un peu à parler des stéréotypes quand on parle de ça, parce que en fait, c'est important aussi de comprendre que notre esprit fonctionne en faisant des raccourcis, en cataloguant les gens et les choses dans des boîtes, parce que ça nous permet de, sinon ça, le monde serait trop compliqué à gérer pour nous. Et que du coup, si on n'arrive pas à caser, quand on est face à quelque chose qu'on ne connaît pas ou qu'on ne sait pas comment appréhender, faire un raccourci, savoir si une personne est un homme ou une femme, c'est utile, parce que ça va nous donner des pistes pour savoir comment nous comporter avec cette personne.
Oui, complètement.
C'est vrai.
Et c'est là qu'intervient justement l'aspect culturel et la notion de genre, qui a donc été instituée en tant que concept pour comprendre ça, comprendre la différence entre le sexe que je viens de vous... Donc, pour lequel je viens de vous donner une définition, et qui, on le voit, amène pas mal de questions, et qui permet de distinguer, au départ, cette notion, cet écart entre biologique et social, on va dire.
Oui, c'est ça. Alors, genre, j'aimerais bien qu'on s'arrête un petit peu, parce que c'est un terme qui a fait tellement polémique que ça serait bien aussi de le, peut-être de le repréciser.
Ouais, de le définir.
Ouais, ouais.
Alors, le terme genre, historiquement, en fait, il prend naissance en termes de première apparition terminologique, on va dire. Dans les années, dans les fins des années 60, aux États-Unis, en fait, c'est un psychanalyste qui s'appelait Robert Stoller, qui va, dans son travail, il travaillait sur l'intersexualité, en fait. Et du coup, il avait besoin, dans son travail, de distinguer entre le sexe biologique et la perception de l'identité psychologique. En gros, c'était comment traiter des personnes qui expriment le fait qu'elles ont un corps sexué biologiquement, par exemple masculin, et qui se sentent femmes. Donc, qui ont une perception, une identité psychologique qui est contraire à leur corps.
À leur corps, oui. D'accord.
Voilà. Donc, il avait besoin, pour pouvoir traiter cette question-là, d'un terme qui lui permettrait de distinguer cette appartenance biologique et un ressenti. Donc, il a créé le mot « genre » pour distinguer ça. Donc, l'origine terminologique, c'est là. Après, ça a été repris dans les années 70 par des sexologues, eux aussi américains, qui reprennent cette distinction et qui insistent sur, eux, la nécessité de différencier entre sexe anatomique et genre, qui renvoie à l'expérience sociale individuelle de chacun, de comment ils investissent ce corps en tant qu'homme ou en tant que femme.
Ok.
D'accord.
Ça n'a pas forcément, je t'arrête juste deux secondes, ça n'a pas forcément à voir avec la sexualité, du coup. C'est-à-dire que, est-ce que genre, ça recouvre aussi des comportements
Alors, c'est ça, la problématique, elle va après, c'est justement sur la sexualité. Ça pose énormément de problèmes en termes de réflexion conceptuelle sur, par exemple, ce qu'on appelle les transsexuels qui passent à l'opération. C'est-à-dire que des femmes, par exemple, qui deviennent hommes et qui, donc, du coup, vivent une sexualité avec des femmes.
Ouais.
Est-ce qu'on considère qu'elles restent homosexuelles, hétérosexuelles? Et ça pose la question de la normativité des relations sexuelles et de la façon dont on les conçoit.
Ouais.
Mais ça n'est pas forcément lié, enfin moi à mon sens, l'activité sexuelle est à différencier de l'identité sexuée.
Oui, ok. Donc voilà. Pour moi, ouais, effectivement, ça rejoint aussi un peu la façon dont je voyais les choses, si on peut repréciser ça comme ça. Il y a le sexe qui est plus une partie, bon, on va dire biologique en résumé, mais anatomique, chromosomique, hormonale, on va dire ça comme
d'accord.
ça. Et une partie peut-être construction du cerveau, mais peut-être que... Parce que la construction du cerveau, c'est tellement dépendant, enfin on en reparlera après, de...
Mais oui, c'est ça, c'est Catherine Vidal qui travaille beaucoup là-dessus, effectivement. Mais c'est un discours qui apparaissait, c'est de faire des IRM et de dire qu'il y a un fonctionnement du cerveau différencié entre hommes et femmes.
Oui.
Alors, tu le constates à un instant T, donc tu peux l'inscrire dans une analyse biologique factuelle, mais en même temps, justement, c'est ne pas faire qu'un des conditions sociales, de l'environnement social, qui va... En fait, le cerveau est tellement plastique
qui va changer.
Les activités font que tu développes...
En gros, pour résumer l'état de la recherche, les différences dans le cerveau, je vais les mettre un peu à part parce qu'en gros, on ne sait pas si elles sont biologiquement innées ou si elles sont acquises par l'éducation. Donc, c'est pour ça que je les mets un peu à part. Donc, on a le sexe biologique, anatomique, chromosomique et puis hormonal, on va dire ça comme ça. On a le genre qui est plutôt la façon dont je me comporte,
oui,
on peut résumer comme,
en fait,
comme ça, voilà.
Mais alors,
en résumé. Et puis on a l'identité sexuelle qui est plutôt la façon dont je vis ma sexualité, quoi, et qui, pour le coup, peut être...
Bah là, c'est pareil, ça dépend de ce que tu mets dans sexuel.
D'accord. Alors
parce que y a moi, je n'appellerais pas ça l'identité sexuelle. Je dirais l'identité sexuée. Et après, tu as une pratique sexuelle.
D'accord.
Mais je ne pense pas qu'elle soit liée à une identité.
Oui.
Mais bon, ça se discute. Hein,
oui, oui, non, mais je prends.
Moi, après, d'après ce que vous disiez tout à l'heure, je trouve que c'est vrai qu'après, j'aimerais bien savoir comment faire pour définir la personne en tant qu'homme ou femme, dans ce cas-là. Si elle a un travesti, par exemple, qui passe donc à la chirurgie. Moi, pour moi, c'est vrai que... Mon sens à moi, je sais pas, après peut-être je me trompe là-dessus, je prends l'identité première, mais après voilà, ça dépend des gens.
Mais la question, c'est à quoi ça va te servir ?
La personne préférerait également que, enfin évidemment, que ce soit l'identité nouvelle.
À quoi ça va te servir de définir ?
Ah non, mais s'il y a besoin de définir, je parle après, je m'en fiche, moi, totalement.
Mais oui, mais on met une définition, comme nous l'a expliqué Christelle, en gros, que parce qu'on en a une certaine utilité, c'est ça, Christelle, hein ?
Oui, mais justement, si je poursuis juste sur le genre, parce que ce que je vous décrivais, c'était historiquement la naissance du terme et de ce à quoi on le rattachait. Mais ça a évolué, ce sens. C'est-à-dire que, donc, historiquement, ça s'est inscrit dans ces démarches-là, dans ces réflexions-là, par rapport à des cas concrets, on va dire presque médicaux, ou à l'époque considérés comme tels. Et ce concept qui est né là, en psychanalyse, on va dire, il a été repris dans les sciences sociales, pour en tant qu'outil, pour travailler en fait sur l'idée de social. Donc tentation de faire le raccourci en quelque sorte, le sexe est naturel, le genre est culturel, d'accord. Mais l'idée, ça va être de reprendre ça pour interroger à travers le genre la construction sociale des identités masculines et féminines. Donc, dans un premier temps, ça va être ça. Et on va dire, il y a nature-culture, d'accord ? Donc, sexe, genre. Et ça a été la première étape. Parce que aujourd'hui, dans les réflexions qui se mènent sur le genre, c'est de se demander si vraiment le sexe est vraiment du côté de la nature et le genre du côté de la culture. Et on se demande aujourd'hui, il y a pas mal de féministes, notamment les féministes matérialistes, mais qui l'ont posé, et c'est maintenant le concept sur lequel on travaille, sur l'idée que le genre, c'est plus la partie sociale du sexe, c'est-à-dire la représentation, la traduction dans les rapports sociaux de cette donnée sexuée et biologique, mais le genre, ce serait la division en elle-même, c'est-à-dire le fait de créer ces deux catégories. Je ne sais pas si vous me suivez.
Alors moi, pas trop quand même, je vous avoue. Voilà.
Ça veut dire qu'en fait, le genre, c'est le principe qui organise même le naturel, c'est-à-dire ce besoin de mettre les gens, les êtres humains, dans une des deux catégories, le masculin et le féminin.
Oui.
Alors même que, d'un point de vue biologique, on n'est pas vraiment capable de le faire. C'est-à-dire, on est plus sur une idée d'un continuum, comme on a vu tout à l'heure, hein, sur le fait qu'il y avait les gonades, il y avait le chromosomique, il y a tout un ensemble de critères.
Ouais.
Et si vous voulez, les gens, les êtres humains, se situeraient sur ce continuum, où l'extrémité de ce continuum, il y aurait un pôle masculin, un pôle féminin, et on peut varier sur ce continuum.
D'accord.
Or, dans la culture humaine, on a imposé la vision binaire, c'est-à-dire qu'il n'y aurait que ces deux pôles.
Et donc, un peu stéréotypé, là, justement, pour le coup.
Ouais. On a une obligation, c'est-à-dire qu'on ne peut pas ne pas être ou un homme ou une femme. Alors même que dans la nature, dans la réalité, c'est le cas.
D'accord.
Ok. Donc ça, c'est
et
intéressant.
Du coup, le genre, ce serait ça. C'est ce principe de division qui est mis en place et qui construit culturellement une différence entre hommes et femmes.
D'accord. Ok, donc du coup, effectivement, la question du genre, elle va aller sur à quoi sert cette division, justement.
Voilà, c'est ça. Ouais.
Et est-ce qu'on pourrait s'en passer, d'une certaine manière ?
Exactement, c'est exactement ça.
Ok. Bon, Olivier est sidéré.
Oui, mais oui, non, je comprends, j'ai bien compris. Mais c'est vrai que c'est compliqué à mettre en œuvre après.
Mais oui, parce que c'est...
Mais si vous le mettez en parallèle, par exemple, avec le racisme,
oui.
Hein, admettons.
Oui,
pour
veux
que
bien.
Tu puisses avoir du racisme, c'est-à-dire que pour que tu puisses, je ne dis pas qu'il faut, hein, mais,
non.
Pour que le racisme existe, il faut bien que tu aies créé des catégories
qui
permettent de mettre les gens dans telle ou telle catégorie et après d'instaurer une hiérarchie entre ces catégories.
Oui, alors ça, c'est les préjugés. Ouais.
Voilà. Et ben, donc, en gros, il te faut le racialisme en termes de conceptualisation de la composition humaine pour que le racisme existe.
D'accord.
Et ben là, c'est un peu la même chose. Il te faut du sexe pour que le sexisme existe.
Okay.
C'est parce que on a créé. Il nous faut ces deux pôles qu'on crée du masculin et du féminin. Alors même qu'on pourrait se dire, si tu t'enlèves cette catégorisation des êtres humains en deux divisions.
Oui, qu'on se considère tous comme des êtres humains, quoi.
Voilà,
en gros.
Exactement. Du coup, tu as d'autres critères qui rentreraient en compte dans la relation aux autres. Moi, je fais un test en formation qui est parlant sur ça. Parce que tu te retrouves avec un groupe de gens, 20 personnes, par exemple, qui viennent suivre la formation.
Ouais.
Qui ne se connaissent pas, d'accord ?
Ouais.
Et tu leur demandes de se mettre debout et tu leur donnes une consigne. Ils ne doivent pas se parler et ils doivent constituer des groupes selon les critères que tu donnes. Donc, ça va être ceux qui ont les mêmes chaussures, par exemple. Tu vois. Donc, ils se mettent tous à regarder quelles chaussures ils ont et ils construisent des groupes avec des chaussures similaires. Après, tu leur demandes la couleur des yeux, ceux qui ont la même couleur d'yeux. Donc, ils vont se constituer en groupe. Et ils se regardent parce que quand ils sont rentrés dans cette salle, ils n'ont pas pensé à regarder la couleur des yeux des gens.
Oui.
En revanche, quand tu leur demandes de se constituer en groupe homme-femme, ils ne se regardent pas. C'est direct. C'est-à-dire que ce critère-là, d'abord, il est tellement prégnant que tu repères tout de suite. C'est la première chose que tu regardes quand tu arrives quelque part. Tu sais qui est un homme et qui est une femme.
Oui.
Mais tout ça pour dire qu'il y a différents critères constitutifs de groupes différenciés selon le critère que tu retiens.
Oui.
Oui, mais alors est-ce que c'est normal ou pas, finalement ? Pour moi, je trouve que c'est normal.
Normal
par rapport à quoi ?
Non, mais normal, c'est parce que c'est...
C'est habituel. C'est,
voilà, oui, mais normal, ça veut dire ça, au final.
Ben voilà, mais ça veut dire que c'est construit.
Oui, c'est une
norme, construit.
Oui. Or, mais sinon, ça ne deviendrait pas une norme, justement.
Mais sauf que dans le discours, le problème, c'est qu'on le... légitime tout le temps par rapport au naturel,
une
donnée de naturel.
C'est une norme construite. Enfin, ce que tu veux dire, c'est que c'est une norme construite et que du coup,
on peut la
modifier, quoi.
Norme, c'est construit, puisque c'est une norme. Vu que c'est une norme, c'est construit.
Oui,
enfin,
mais,
c'est inverse.
Mais,
c'est
mais,
parce que
mais
ça
parfois,
va pas,
on a tendance à l'oublier que c'est construit. C'est
ouais,
ça que
oui,
je voulais
oui, d'accord.
C'est
oui,
ça que je voulais
mais
dire.
Tout à fait, c'est vrai.
Donc,
parce qu'après, on peut y adhérer à cette norme. Ça, c'est pas problématique. Hein.
Oui.
Moi, je peux considérer pourquoi pas.
Oui.
Mais la deuxième difficulté sur la question égalité homme-femme, c'est que cette norme-là et cette distinction-là, qu'on pourrait accepter, par ailleurs, enfin, à laquelle on peut adhérer, sur laquelle on fonctionne, qui pourrait ne pas être problématique, c'est qu'elle a donné lieu, en plus, à une hiérarchisation.
Oui.
C'est ça.
Oui,
parce qu'en
ça.
Fait, nous, tout le monde, je pense, pense que c'est fondamental, finalement. Et c'est ça, c'est ce côté fondamental qui, mais qui paraît normal, finalement.
On va dire, pour moi, c'est fondamental dans certains domaines.
Oui.
Celui, notamment, alors peut-être de la pratique sexuelle, je ne sais pas, mais de la reproduction, en tout cas. En tout cas, en l'état actuel des choses. Dans d'autres domaines, c'est beaucoup moins fondamental.
Oui.
Si on y réfléchit bien.
Oui, ben, oui.
D'ailleurs, on va parler du travail. Il y a tout un tas de domaines où cette distinction, cette polarisation homme-femme, n'a pas vraiment de sens finalement. C'est ça.
Dans le travail, tout ça, non, c'est clair et net, oui.
Ouais. Et pourtant.
Et pourtant quoi ?
Bon, justement, on va parler avec notre invité suivant.
Tu me poses une question.
Écoute, Christelle, je te remercie.
Merci beaucoup.
Mais c'est moi, merci de m'avoir conviée à participer à la réflexion.
Mais je t'en prie. Donc, je mettrai en lien sur la page de l'émission tes coordonnées pour que les gens qui sont intéressés puissent se mettre en relation avec toi si toutefois ils sont intéressés.
D'accord.
En tout cas, c'était très intéressant. Moi, j'ai appris plein de choses.
Bon, ben voilà, super. Merci beaucoup, Christelle.
Merci beaucoup, à très bientôt.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Donc oui,
Bon, alors t'as appris plein de choses.
J'ai appris plein de choses.
Formidable.
Mais oui, c'est ça. Mais c'est vrai que, voilà, alors j'ai appris plein de choses. Je me doutais de pas mal de choses. Ça a confirmé, en fait, ce que je pensais. Mais effectivement, voilà, c'est quelque chose que, pour moi, je me trompe certainement.
Pas forcément.
Peut-être. Oui, je dis certainement, mais non, peut-être je me trompe. Mais c'est vrai que je considère un homme et une femme comme un homme et une femme, et pas inversement. Tu vois ce que je veux dire ?
Mais tu vois, encore une
jusqu'à
fois...
Jusqu'à preuve du contraire.
Encore une fois, la question que je pose, moi, c'est finalement cette distinction. À quoi va-t-elle te servir ?
Non, dans la vie courante, c'est vrai qu'en même temps, tu vois une femme, tu dis bonjour madame. Enfin, tu vois, ça sert à ça, on va dire, pour le langage, pour tout ça.
À rentrer en relation de
exactement,
façon adéquate.
Voilà. C'est ça. Après, pour le reste, ça dépend pourquoi.
D'accord, tu
m'as compris, quoi. Là, on parle trop de sexe, du coup.
Si tu veux aller sur la partie pratique sexuelle.
Oui, voilà. Non, après, si c'est, par exemple, est-ce que je vais... par exemple, pour embaucher quelqu'un, je reçois du personnel. Enfin, du personnel, non, c'est pas du personnel. Je reçois des personnes. Et je me dis, moi, je recherche plutôt une femme ou un homme dans ma tête. Mais c'est vrai, pour certains types de postes.
Ah.
Et oui, on est obligé. Mais ça dépend pourquoi. Et oui, on est obligé. On est obligé d'avoir un... Je dis pas qu'on est obligé de le mettre en œuvre, mais on est obligé d'y penser. Tu vois ce que je veux dire ?
Mais je ne suis pas sûre de bien comprendre.
En fait, on n'a pas le droit, légalement, on n'a pas le droit de dire, voilà, il vaut mieux un homme ou une femme pour tel poste.
Ouais.
Et d'ailleurs, ce ne serait pas logique. Ça ne laisse pas la chance à tout le monde.
Ouais.
Par contre, dans ta tête, enfin, dans ma tête, on va dire, je vais le dire comme ça. Dans ma tête, c'est vrai que je vois. C'est même pas que j'ai envie, c'est que dans ma tête c'est stéréotypé, comme tu dis, tu vois, c'est, tu vois par exemple j'ai une entreprise de, et pourtant c'est le contraire, tu vas voir, j'ai une entreprise de transport routier. Bon, on se dit direct dans notre tête, on va chercher des hommes, on voit arriver une femme et pourtant la femme va faire l'affaire, tu vois ce que je veux dire?
Oui.
Donc on est obligé d'y penser.
Mais...
Donc voilà, là ça servirait à rien, c'est ce que je veux dire.
Ouais.
Par contre, dans le langage ça sert, dans plein de choses ça sert, j'ai l'impression.
Mais alors, sur l'impact sur la vie professionnelle, on
va
justement aller vers notre deuxième invité, bientôt.
Oui, dans quelques instants.
Dans quelques instants, on va faire une petite pause musicale parce que je pense qu'effectivement, voilà, cette vision un peu stéréotypée, cette vision de il y a certaines choses qui sont pour les femmes et d'autres qui sont pour les hommes, de les femmes sont plus comme ci ou plus comme ça, cette façon de voir les choses qui peut-être, est légitime, on ne sait pas, mais bon, on commence à en douter un peu au travers de ce que nous a dit Christelle.
Mm-hmm.
Elle a un vrai impact sur la vie professionnelle des hommes et des femmes.
D'accord.
Et des femmes en particulier, malheureusement, mais sur celles des hommes aussi. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu faire intervenir notre deuxième invité.
Mm-hmm.
Qui va nous parler de ce sujet-là.
Eh bien, on en parle dans quelques instants.
Voilà.
Je veux rappeler une petite chose. Enfin, c'est pas rappeler, non, c'est simplement dire. Pas pour le numéro, là, on va le rappeler
ça,
dans quelques instants.
Aussi,
c'est simplement pour parler de ça, juste avant qu'on prenne la personne au téléphone, notre invité. Je suppose que si toi, par exemple, je dis toi, si, je sais pas si tu penses pareil que moi ou pas, donc
mais
je peux pas savoir. Mais imaginons toi ou n'importe qui penserait le contraire de moi, on va dire.
Ouais.
Voilà. C'est même pas toi. C'est quelqu'un qui
pense
le contraire de moi.
Ouais.
De ce que je pense.
Donc ça serait
imaginons,
quoi le contraire déjà.
Alors le contraire, c'est que moi, en fait, j'ai tendance à réagir comme je viens de t'expliquer.
Ouais, donc,
et c'est pas normal, je reconnais.
Les hommes sont...
Non, c'est dans ma tête, je réagis comme ça, je me dis... c'est vrai, je lance une offre d'emploi pour quelque chose, je vais recevoir la personne, quand je vois arriver une femme pour un poste ou un homme pour un autre poste, pour un secrétaire par exemple, moi je trouverais ça encore étrange dans ma tête, mais après par contre je me dirais non, ça va faire l'affaire.
Okay.
Par contre, quelqu'un qui penserait pas pareil, c'est juste comme ça, c'est comme ça, on posera peut-être la question, je sais pas si c'est possible.
Mais disons qu'il y a deux choses, tu peux... avoir conscience, enfin être surpris parce que c'est pas dans tes habitudes, ton mode de fonctionnement.
Voilà, c'est la surprise.
Mais
surtout.
Prendre du recul et te dire ok, je vais quand même voir si cette personne fait l'affaire et on va voir ce qui se passe.
Mais tu doutes, on doute. Ça fait douter quand même.
Tu vas probablement du coup à
on se dit on va basculer, il y a pas de problème.
Un homme
mais
qui se présenterait pour un poste de secrétaire, tu vas certainement être plus exigeant. Lui demander
alors,
plus de choses.
Alors ça, je suis pas sûr.
Pas sûr.
Ah non, moi, enfin, en l'occurrence pour moi, hein, pour ma part, je pense pas que je serais plus exigeant ni avec une femme ni avec un homme pour un poste quelconque. C'est plutôt, je vais voir ce que ça va rendre, ce que ça va donner, mais par contre, je le jugerai pas plus parce que c'est un homme ou parce que c'est une femme, plus différemment, on va dire. Par contre, c'est vrai que tu reçois quelqu'un, un plombier ou n'importe quoi à la maison, tu t'appelles allô plombier, et c'est un homme qui te répond pour te dire on prend rendez-vous pour telle date et tout ça, et puis il arrive une femme. Honnêtement, comment tu réagis? Ça fait bizarre.
Je me dirais super, une femme qui fait du travail
non,
manuel.
Non, je suis pas sûr que tu te dis ça. Franchement, j'aimerais bien être un truc dans le cerveau, tu sais, une cellule là qui voit tout.
J'ai,
je pense qu'on se dirait Oui.
Un de mes contacts qui vient de, enfin qui est sur Facebook,
oui.
qui est une maman qui a un blog et tout ça, qui vient de se reconvertir. Elle était dans le internet et tout
ouais.
ça, et elle vient de se reconvertir comme plombier.
D'accord.
Et je trouve ça super.
Mais c'est super. Mais justement, mais je connais une plombière. On appelle ça une plombière en plus,
ouais.
en vrai.
Oui.
Je le sais parce que j'avais une entreprise dans le bâtiment. Mais on va dire que si tu as eu la personne avant qui a pris le rendez-vous tranquillement, c'est un homme, et tout le reste, toi, tu te dis, bon, c'est un homme, ça fait le même principe, tu vois ce que je veux dire ? C'est le même, c'est une sorte de petit choc, tu vois,
oui, c'est intérieur. C'est une certaine surprise, c'est-à-dire que si tu t'attendais à quelque chose et que tu as quelque chose de différent, tu
ben, oui,
surpris.
Voilà, c'est ça, en fait. C'est ce principe-là. Alors qu'après, ben,
y a pas de question
tout peut changer.
Compétence,
et puis, voilà.
quoi.
Ah non, exactement. Non.
C'est juste que parfois, la surprise, comme il y a des préjugés
ouais,
derrière
ben
tout
oui.
ça, c'est-à-dire, ah, mais une femme sera moins compétente qu'un homme, s'il n'y a pas ce préjugé, si c'est juste, bah, je m'attendais à un homme puis c'est une femme, oh je suis surpris, mais bon,
ben
voilà.
Oui.
Si derrière ça il y a un préjugé, c'est-à-dire où en plomberie, une mm-hmm. femme sera moins compétente qu'un homme,
et pourtant,
alors que c'est pas le cas.
Dans l'équipe que je connaissais, c'était la seule qui avait le CAP par exemple et qui,
voilà.
qui travaillait extrêmement bien.
Ben, on va en reparler justement avec notre invité, mais s'il y a un préjugé
oui.
et que du coup on commence à mettre en doute les compétences de mm-hmm. la personne, ça risque de mal se passer.
Là, c'est pas bon.
Voilà.
On en parle dans quelques
oui,
instants. Alors,
une petite plage musicale.
On rappelle juste le numéro de téléphone.
Oui.
Hein, appelez-nous, n'hésitez pas. 04 57 29 04 18. Si vous avez des questions ou si vous voulez rapporter des faits que
yes.
vous avez vécu,
surtout
tout simplement.
On va parler de vie professionnelle, donc je suis sûre qu'il y a plein de
oh,
faits.
Bah,
j'ai moi-même mon propre témoignage à donner.
Ah, bah alors voilà, donc, on va l'apprendre ça dans quelques instants.
Et donc vous avez l'email aussi, contact@bugeradio.fr.
Très
à
bien, merci beaucoup.
Suite.
À tout de suite, Sandrine, Suzanne Vega sur Buget Radio. Il est 10h46.
Votre radio, Buget Radio.
Et la prochaine invitée du mois qu'on va avoir dans quelques instants, c'est donc Cécile
Vandorme Martin.
Merci.
Donc Cécile, bah je vais peut-être la présenter un peu.
Ouais,
hein,
on
l'a en ligne là, mais on va la présenter. Donc Cécile, en fait, c'est une ancienne cadre d'entreprise dans mm-hmm. le développement commercial et qui est devenue, à la faveur d'une reconversion professionnelle, consultante en ressources humaines.
D'accord.
Spécialisée en mixité professionnelle.
Ah.
Donc,
étrange, je connaissais pas ce métier. Non, le métier.
Ah, le métier. Bah, ouais. Consultante en ressources humaines.
Non, mixité en mixité.
Ouais, la spécialisation.
Ouais, la spécialisation, on va dire, ouais. du métier. Voilà.
Donc, mixité professionnelle, égalité homme-femme et en articulation temps de vie personnelle, mm-hmm. temps de vie professionnelle. Tu vois ?
D'accord.
Donc, vaste sujet qui est pile dans l'axe de ce qu'on voulait faire aujourd'hui.
C'est pile dedans.
Et puis, du coup, elle est également rédactrice pour des sites web ressources humaines. Elle travaille sur la marque employeur. Donc, c'est un engagement multiple dont le point commun est le bien-être de chacun, la performance sociale et économique des entreprises. Et évidemment, elle est aussi épouse d'un chef d'entreprise et maman de 3 garçons, dont des jumeaux. Donc, que du bonheur de ce côté-là,
ouais.
M'a-t-elle dit.
Il n'y a aucune différence à faire, du coup, mince.
Mais du coup, tu vois qu'elle doit avoir une vie bien occupée.
Bien remplie, oui.
Et de quoi dire sur l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle, pour le coup.
Eh bien, on la reçoit tout de suite.
Bonjour.
Bonjour, Cécile.
Bonjour.
Bon, est-ce que j'ai bien résumé déjà ? Parce que je vérifie, est-ce que j'ai bien dit tout ce qu'il fallait ?
C'est parfait.
Bon,
c'est
super.
Parfait.
Une vie bien remplie, ça, c'est sûr aussi.
Ça, c'est
clair. C'est exactement ça aussi.
Ça, je pense que c'est très très clair.
C'est vraiment ça.
Ouais. Pour avoir un parcours un peu similaire, j'ai moins d'enfants, moi j'en ai que 2. J'ai aussi un époux chef d'entreprise. Donc je partage, je pense, une partie de tes préoccupations, Cécile.
Voilà. Donc. Mais ça fait aussi ça fait le charme de la vie. Hein,
exactement.
De savoir ouais. articuler tout ça.
Mais on s'ennuie pas au moins.
Ça, non.
Bon, Cécile, j'ai souhaité te faire intervenir sur les recommandations de Claire du site Égalimère dont je parlais tout à l'heure et dont je reparlerai à la fin de cette émission, justement pour parler de l'impact un peu de la façon dont on voit les hommes et les femmes dans la vie professionnelle. Donc la première question que j'avais envie de te poser, c'est justement ces stéréotypes ou peut-être ces préjugés sur les hommes et les femmes. Quels sont-ils ? Quels sont ceux qu'on rencontre le plus souvent en entreprise ?
Alors je vais rebondir sur ce que disait tout à l'heure Olivier. C'est le premier, c'est sur les choix de carrière, hein, sur les types de métiers que les femmes ou les hommes seraient censés faire ou ne pas censés faire.
Ouais.
Donc par exemple... on voit difficilement faire une femme, voir une femme faire carrière dans le BTP, plutôt dans l'habillement, les produits de luxe par exemple,
ouais.
ou dans la santé.
ou les métiers de la communication. Et par contre, le métier de sage-femme, on ne voit pas forcément
pratiqué par un homme.
Et pourtant voilà. Sage-femme, donc on a appris que ça voulait dire, c'était pas le nom de la femme, enfin le nom du métier de la femme, voilà.
On a eu une invitée sage-femme il y a quelques mois.
On en a parlé de ça. C'est sage-femme pour un homme, c'est pareil. Il n'y a pas sage-homme.
Voilà. Non, il n'y a pas sage-homme. Mais en fait, dans la représentation qu'on se fait de la, je le dis, de la sage-femme, du sage-femme, c'est une femme. C'est une femme, donc elle est censée avoir eu des enfants, etc. Et tout comme le plombier, on voit un homme. Ça, c'est un premier stéréotype. Donc, en termes de carrière, donc c'est un impact sur le côté professionnel. Et après, il y a dans le quotidien professionnel, on attribue aux femmes des meilleures capacités relationnelles. C'est un stéréotype. La femme aurait de meilleures capacités relationnelles, serait plus capable, par exemple, de travailler en équipe parce qu'elles ont de l'empathie, parce qu'une femme a des facilités de communication, parce qu'elle est plus douce, parce qu'elle est moins autoritaire.
Moins autoritaire, c'est pas vrai, parce que les hommes pensent le contraire, justement.
Alors, justement, je vais rebondir là-dessus. Alors, voilà, donc ça, c'est les stéréotypes des femmes. Elles sont douces, elles ont l'empathie, ont des capacités relationnelles, communicantes, etc. Et par contre, si la femme est autoritaire, si elle fait preuve de pouvoir, on va la qualifier d'autoritaire et d'égoïste, donc plutôt de manière négative.
Oui.
Alors que si elle a un comportement, alors que si c'est un homme qui aura un comportement directif ou qui est de pouvoir, on va plutôt dire qu'il a du leadership, du charisme,
qu'il a de la poigne.
C'est ce qu'on se dit.
En fait, voilà, on, pour des mêmes caractéristiques, on met un adjectif différent. Enfin, voilà, on caractérise différemment la femme de l'homme. Ouais. Ça, c'est un stéréotype.
Si je peux me permettre de t'interrompre juste une petite minute, je trouve que ce qui est un peu interpellant dans ce que tu viens de dire, c'est que en gros, si une femme a un comportement masculin, elle va être plutôt qualifiée négativement, enfin, entre guillemets, jugée masculin, donc voilà, avoir du pouvoir, de l'autorité et tout ça, elle va plutôt être qualifiée négativement. Si un homme a le même comportement, il va être plutôt qualifié positivement. Mais est-ce que du coup, à l'inverse, si un homme a un comportement plus, entre guillemets, qualifié féminin, est-ce que lui aussi, il va être un peu discrédité?
Moi, je pense. Mais bon.
Mais voilà, Cécile va nous
répondre. Exactement, si on s'en tient au schéma du stéréotype, l'homme qui va faire preuve d'empathie, de communication, va être considéré comme un peu faible, un peu mou, à qui on ne va pas forcément.
Et vous êtes gentil. Vous êtes gentil.
Après, je n'adhère pas du tout sur ces façons de penser.
Moi non plus, justement, c'est pour ça que je dis ça.
Mais effectivement, du coup, ça pose problème aussi bien aux hommes qu'aux femmes, d'une certaine manière, parce qu'on n'est pas libre de se comporter comme on aurait envie de le faire, quoi.
Exactement. Donc, par exemple, si on continue sur les stéréotypes, c'est l'arrivée de l'enfant dans la vie d'une famille, parce qu'un enfant, c'est un couple,
c'est pas seulement la femme,
voilà. Pourtant, dans l'entreprise, on va attribuer l'arrivée de l'enfant et la charge qui en découle à la femme, de manière, un stéréotype et cliché et global.
Ouais.
Et donc, ça veut dire qu'une femme qui va avoir un enfant qui est devenue maman, forcément, j'appelle ça le syndrome du neurone unique, elle va être moins disponible dans sa tête, elle va devoir s'absenter, on va plus pouvoir compter sur elle. Et donc, lui reviennent toute cette charge à la fois logistique et puis dans sa tête, de temps à passer pour l'enfant, alors que l'homme, le papa, lui aussi il est devenu papa, lui aussi il a un enfant qui est rentré dans sa vie, et lui aussi il a peut-être envie de s'occuper de cet enfant, mais spontanément l'entreprise ne va pas y penser. J'ai même un cas en tête d'un papa qui n'a pas réussi à avoir deux jours d'enfant malade, alors qu'il a dit sa femme était en déplacement, c'est lui qui a gardé son enfant, on lui a dit non, tant pis, c'est une journée non payée.
Vous
êtes un papa, vous n'avez pas de journée enfant malade.
Alors que non. Mais là-dessus,
C'est interdit même maintenant, non?
En théorie, il n'y a pas de raison que ce soit discriminant, que ce soit que les jours d'enfants malades.
Mais je crois qu'avant, il y avait un truc là-dessus, non?
Je ne sais pas.
Mais en tout cas, c'est interdit.
Il y a toujours des entreprises. J'ai un ami qui en a parlé il n'y a pas très longtemps, qui m'a dit, moi, je n'ai pas de journée enfant malade en tant qu'homme dans mon entreprise.
Même en le demandant vraiment... c'est incroyable,
ça. Non, il faut qu'ils prennent une RTT. Il n'y a pas de journée enfant malade. Donc, c'est assez sidérant.
Oui, c'est sidérant.
Alors, le frais vent...
On peut les mettre au prud'homme, ces entreprises, dans ce cas-là, si on ne peut pas discuter et pas bénéficier de jours légaux, puisque c'est comme ça qu'on peut les appeler.
Éventuellement, on peut aller plus loin. Il y a des conventions collectives aussi.
Oui, il y a des conventions.
Je n'ai pas approfondi, mais...
Mais oui, il voilà, y a quelque chose à, en tout cas à réfléchir peut-être au niveau du droit du travail, parce que les hommes ont, comme les femmes, envie.
Après, est-ce que
de
voilà, on n'a pas le cas exact, puisqu'on ne sait pas si peut-être les femmes c'est pareil, peut-être c'est en RTT
non,
également,
ça,
on sait
normalement.
Oui, mais on ne sait pas.
Non,
du coup,
non.
Dans
non,
quelles
dans
entreprises.
Travail, c'est pas...
Oui, mais alors justement, donc voilà, il y a bien une règle alors, c'est ce qu'on disait.
Juste, moi, je voudrais apporter deux témoignages par rapport à ça. L'un personnel et l'autre qu'une personne avec qui j'ai animé un atelier m'avait rapporté. Donc. Par rapport à cette problématique d'enfant malade. Donc, dans un couple, deux personnes avec un travail à responsabilité, donc le papa et la maman ont tous les deux un travail à responsabilité, et il y a un enfant malade. Et c'est un enfant qui est normalement scolarisé, donc il n'y a pas de nounou, il n'y a pas de solution de secours, de grands-parents proches, tout ça pour le garder. Donc, le matin, le papa et la maman se discutent en disant « Bah écoute, il va falloir le garder à la maison, qui s'y colle en gros ?» Et la maman regarde son agenda et dit « Moi, j'ai vraiment une réunion très importante aujourd'hui, donc je ne peux pas annuler, je suis obligée d'y aller. » Le papa regarde son agenda et dit « Bah moi, c'est bon, je peux annuler et ne pas aller travailler aujourd'hui, il n'y a pas de problème. » Et donc, la maman dit au papa « Eh bien, écoute, tu peux prendre un jour de congé pour enfant malade. » Et que lui répond le papa, à ton avis, Olivier ?
Je ne sais pas du tout, parce que honnêtement...
Il lui dit « Non, je ne peux pas faire ça, sinon, excusez-moi, je vais être vulgaire, mais sinon, je vais passer pour un branleur. »
D'accord, ok. C'est son choix.
Mais oui, mais
c'était le côté voilà, les hommes sont plus
mais c'est vrai, c'est ce que pensent peut-être certains hommes comme ça.
Mais
hein,
non, mais alors c'est pas ce que lui il pense.
Oui.
C'est ce que a priori sa hiérarchie ou son milieu
d'accord.
professionnel pense, c'est-à-dire qu'un homme qui s'investit pour ses enfants et qui prend des jours de congé pour enfants malades est considéré comme quelqu'un qui n'est pas motivé.
C'est bas quoi.
Voilà.
Donc ça c'est un vrai stéréotype.
Ouais, ouais, là oui.
Voilà. Le présentéisme également, hein, le fait de faire des heures longues, de rester en même temps tous les hommes le soir.
Ouais.
Alors qu'il y en a beaucoup qui aimeraient aller chercher leurs enfants à une fois de temps en temps à 4h30 ou plus régulièrement à 6h30 à la crèche. C'est aussi ça. Les femmes se posent pas la question, elles vont chercher les enfants à la crèche ou à l'école.
Ouais.
Et elles arrivent très bien à tout articuler. Mais les hommes vont avoir plus de mal à le faire pour des raisons stéréotypes.
Oui, ce qui est dommage.
Et donc tout ça, voilà. Et donc tout ça conduit à en fait à un espèce de duo qui est, enfin, dans l'entreprise où il y a l'homme qui sera plutôt le manager, le responsable, celui qui a le pouvoir, et la femme sera plutôt l'assistante.
Oui.
Et donc on découle des salaires moins élevés pour les femmes, des progressions de carrière qui sont plus lentes, des responsabilités moins importantes pour les femmes. Vous voyez, en fait, le stéréotype part de quelque chose qui est assez ponctuel ou factuel et on découle sur des carrières complètes.
Oui, des conséquences du coup vraiment réelles et concrètes sur la suite des événements. Parce qu'effectivement, si on s'imagine qu'une fois qu'une femme a des enfants, elle est moins disponible, on va plutôt hésiter à lui donner peut-être des postes à responsabilité ou qui demandent un engagement. En gros, c'est ça.
Alors, c'est ça qui est assez paradoxal, c'est que soit... Alors, de moins en moins, les entreprises ont ce raisonnement.
Ouf.
Mais c'est la femme elle-même qui va être tentée de refuser pour se conformer à une image ou à un rôle social qu'elle pense qu'elle doit jouer compte tenu de tous les stéréotypes qu'elle a engrangés, intégrés
d'accord.
depuis qu'elle est née. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais en fait, c'est je ne peux pas accepter
moi,
parce que... Voilà, je peux pas accepter ce poste parce que je vais voyager, comment je vais faire avec mes enfants ?
Mon
mari ne peut pas s'en occuper quand même.
Ouais.
Alors qu'elle en a très envie, elle en est capable, elle sait qu'elle pourra jongler, elle sait que son mari est capable. Et voilà, donc on est sur un double effet qui se coule du stéréotype, qui est de l'extérieur vers la personne, et la personne elle-même qui l'a intégrée et qui se conforme à ce qu'elle pense qu'on attend d'elle.
Ouais, ok. Et qui peut-être aussi, du coup, pour le coup, dévalorise son conjoint en se disant peut-être qu'il ne pourra pas s'occuper des enfants.
Je pense que c'est même pas peut-être. Enfin, pour moi, en l'occurrence, c'est vrai que ça serait...
Alors, d'expérience personnelle, je sais que les papas s'occupent extrêmement bien des enfants quand les mamans ne sont pas là.
Ah, ben,
parce que moi, je suis souvent absente le soir, donc je
et
sais que
ma
ça se passe extrêmement bien.
Bah, tu vois, ma femme avait peur de partir au travail et ne sachant pas si j'allais me débrouiller ou pas avec la petite. Bon, je lui ai dit, écoute, quand tu conduis, et c'est vrai, ça, c'est assez fréquent, c'est peut-être parce que je suis trop imposant dans le couple, c'est vrai, je reconnais, beaucoup de gens me le disent, mais quand tu conduis et que je suis à côté de toi, tu te trompes toujours, tu vas toujours à des endroits où il ne faut pas, tu ne sais pas où tu vas, tu te perds et à un moment, tu es en panique totale. Alors que quand tu es toute seule, tu vas n'importe où et tu te débrouilles tout le temps et tu rentres tout le temps comme il faut.
Donc c'est toi qui la stresses,
en fait,
tu es en train de nous dire.
Mais le problème, c'est que je lui ai dit, c'est exactement pareil dans le sens, où quand tu es à côté de moi et que je m'occupe de la petite, j'ai toujours peur de faire une bêtise, du coup, voilà. Et c'est pour ça.
On en reparlera ça dans l'impact, justement, vie de couple, la partie suivante de l'émission, parce que c'est effectivement très important. Alors, on va en revenir un peu à la vie professionnelle. Alors, moi, j'avais un autre témoignage qui est mon témoignage personnel, il y a quelques années en arrière, une dizaine d'années en arrière. Je cherchais à changer d'entreprise. À l'époque, j'étais mariée, mais je n'avais pas d'enfant.
D'accord.
Et donc, en entretien, le recruteur me pose une question qui, alors tu vas me le dire, Cécile, il n'a normalement pas le droit de poser, mais il m'a demandé si j'avais, si je souhaitais avoir des enfants.
Ouais, normalement, effectivement, on n'a pas le droit de poser ce genre de questions. Bon. Comme les questions de religion, de syndicalisme, enfin d'engagement syndical, etc.
Ok. Donc, il me pose cette question. Bon, moi, bonne fille, je lui réponds, d'autant plus que j'étais très honnête. Je lui dis, ben, c'est un projet, mais pas avant 2 ou 3 ans. Voilà, pour le moment, c'est pas du tout dans, dans mes projets tout de suite. Bien. Et là, il me pose une question qui m'a un peu laissé... couette, on va dire ça comme ça. il me dit, et quand vous aurez des enfants, est-ce que vous envisagez de prendre un congé parental ? Donc, ça en dit long sur sa représentation de les femmes. Voilà. Bon, le poste ne m'intéressait pas plus que ça, alors je me suis permise simplement de lui dire, mais excusez-moi, mais si j'avais été un homme, est-ce que vous m'auriez posé cette question ? Et donc, il m'a répondu, ah ben non, parce qu'on sait bien que c'est les femmes qui prennent les congés parentaux.
Ah non, moi j'aurais pas dit ça. Ah mais tu vois, moi si j'avais été à sa place, j'aurais peut-être dit non, effectivement, je vous aurais pas posé la question de savoir si vous allez avoir des enfants, parce que ça vous concerne pas physiquement, mais par contre, tu vois, pour essayer de se justifier, quoi. Mais par contre, non, c'est vrai que le congé parental peut être pris par n'importe qui, enfin, c'est n'importe quoi.
Surtout
ça.
Maintenant, mais à l'époque, c'était...
Ah oui, d'accord, tu m'as dit il y a 10 ans à peu près. Ah oui, ouais, c'est possible. Là, c'est
donc voilà, ça en dit long sur les représentations et sur l'impact que ça peut avoir.
Franchement, oui.
Et puis, sur la logique de pensée de la personne qui pose des questions, parce que, mine de rien, il est peut-être papa lui-même, il est bien content que ce soit sa femme qui ait porté l'enfant.
Exactement.
Et que sans les femmes, il n'y aurait pas d'enfant. Et ça pose la question de la parentalité, enfin, de la place de l'enfant dans l'entreprise. On ne peut pas faire sans la grossesse. Enfin, jusqu'à maintenant.
Jusqu'à maintenant, c'est vrai.
Donc, il faut l'intégrer, et c'est la vie, et c'est la vie, du coup, de l'entreprise aussi.
Ouais.
C'est pas une maladie, c'est pas une tare, c'est juste. Il y a certains êtres humains qui ont ces périodes-là, mais pour le bien-être du genre humain, justement.
La grossesse a un gros avantage. Elle est prévisible et organisable. Enfin, prévisible au moins 9 mois.
Une fois qu'elle est lancée, on peut s'organiser.
C'est ça. Je m'explique. J'explique pourquoi je dis ça. J'ai échangé il y a quelques temps en arrière avec un patron d'une entreprise de BTP, justement, qui est dans la région lyonnaise et qui emploie beaucoup de sportifs, enfin, quelques sportifs de haut niveau, notamment des rugbyman. Et il me disait, en rigolant, mais tout à fait sérieux quand même, il me disait, moi, je préfère employer des femmes plutôt que des rugbyman. Et un peu surprise, je lui demande pourquoi. Il me dit, au moins, les femmes, quand elles sont enceintes, on le sait à l'avance, on peut s'organiser, on peut recruter. Il dit, moi, le rugbyman, dimanche, il se pète un genou, il n'est pas là pendant 6 mois, et il faut que je gère du jour au lendemain prévoir.
Tu veux dire qu'on peut programmer, en gros, c'est-à-dire que la personne dit, bon, ben ça y est, je suis enceinte, on peut prévoir.
Certes, c'est un inconvénient et une désorganisation temporaire, mais ça peut s'organiser.
Oui.
Se prévoir.
Non, je pensais que la grossesse était prévoyable.
Non,
effectivement.
L'impact
d'accord.
de la grossesse sur le travail peut s'organiser, se
c'est
réfléchir.
C'est ce qui est plus
gérer.
Logique, c'est vrai. C'est logique.
Donc voilà, c'est vrai que du coup,
il avait pas tort. Hein.
Mais oui, mais tenir rigueur aux femmes, du coup, du fait que c'est elles qui portent les enfants, on n'y est pour rien. Hein.
Par contre, c'est vrai qu'il avait pas tort, moi je dis ça, mais c'est pas bien de le dire non plus, parce que du coup, il privilégie les femmes par rapport aux hommes. Tu vois ce que je veux dire?
C'est pas tout à fait vrai, parce que pour le coup, il avait un peu des deux.
Mais... D'accord. Mais oui, enfin voilà, mais s'il préfère. Mais si c'était dans un entretien ou quoi, ou peu importe, en une réunion, on a logiquement pas le droit de dire ça, finalement.
C'était justement pour dire que lui, il était un peu sorti de ça et il sortait de ce débat. Ce qui est assez rigolo, justement, c'est que les chefs d'entreprise qui ont des filles sont beaucoup plus sensibles aux questions d'égalité dans leurs entreprises que les autres.
D'accord. Ah oui, alors moi, je vais être hyper sensible, alors.
Hein, je ne sais pas ce que tu en penses, Cécile. Est-ce que c'est...
Si. Et d'autant que souvent dans les entreprises, à cause des stéréotypes, on ne s'attend pas forcément à des femmes. Les femmes apportent une autre façon de voir les choses et souvent dans l'organisation du travail apportent du mieux. Moi, je pense au métier de la réparation de matériel agricole où il y a une jeune femme là qui fait une alternance en fait et elle est physiquement pas capable de porter les mêmes charges que ses collègues hommes et elle a réfléchi à des manières de faire autrement qui du coup ont été adoptés par ses collègues hommes et qui ont réduit les accidents, alors pas forcément les accidents de travail, mais en tout cas les maux de dos, etc., parce qu'elle fait du levage en fait avec des appareils. Plutôt que... Voilà, donc en fait, c'est du mieux, ça...
Alors,
c'est,
attention, on n'a pas le droit de dire c'est du mieux, du coup, hein, là, pour
mais
le coup.
Si, c'est du mieux pour
non,
tout
c'est
le
pas
monde.
Non, c'est pas du mieux, c'est, vu que c'est une femme, on ne peut pas dire c'est mieux qu'un homme, du coup. C'est,
mais
ça,
c'est pas,
pas,
c'est
trop,
pas elle,
droit.
C'est pas que
les
elle, c'est mieux.
Les conditions de travail ont été améliorées, en fait.
Ah, pour cette femme, d'accord.
Ça
okay,
a amélioré
d'accord.
les conditions de travail pour toute l'entreprise.
D'accord, ok. Ah oui, non, c'est l'expérience.
Voilà, elle a réfléchi à comment porter autrement des objets un peu lourds.
Oui.
Et du coup, elle a fait une proposition parce que elle n'y arrivait pas toute seule. Elle a fait une proposition donc avec un appareil de levage et ça a été accepté par l'entreprise. Et du coup, l'entreprise l'a fait l'a imposé entre guillemets à tous les salariés et tous les salariés s'en trouvent très contents parce qu'ils ont moins de problèmes de dos, etc.
C'était une super idée.
Voilà, c'est une super idée et il n'y avait pas pensé avant parce que c'était parce qu'on faisait comme ça avant, on portait à main nue et point final. Quoi.
Mais du coup, enfin, j'allais dire, ça aurait pu être, tu vois, c'est la question du mieux, c'est sur l'amélioration des conditions de travail, Olivier, pour te répondre.
Oui.
Ça aurait pu être issu d'un homme qui aurait eu peut-être une incapacité physique.
Oui, bah oui,
voilà,
oui, ça peut arriver, effectivement.
Qui aurait été confronté
au même
problème.
Non, je l'avais
pas compris
comme ça, c'est pour ça.
Ok.
Effectivement.
Voilà. Donc du coup, donc ces stéréotypes, ils sont assez globaux. Ils ont un impact. Donc tu nous disais sur le choix de carrière, c'est-à-dire que les filles vont plutôt s'orienter vers certains types de carrières et les garçons vers d'autres. En gros, c'est ça.
Voilà, c'est ça. Donc par exemple, on a les femmes représentent 2% des ouvriers du bâtiment, 10% des chauffeurs, 15% des policiers, mais 97% des aides à domicile et des secrétaires, 73% des employés de la fonction publique ou 90% des aides-soignants.
Alors moi j'aurais une question, est-ce que c'est par on va dire par norme comme on disait tout à l'heure avec l'invité précédent ou est-ce que c'est tout simplement parce que par envie, parce que est-ce qu'il y a pas l'envie derrière de faire un autre métier et finalement on se bloque parce que c'est pas normal soi-disant.
Mais je pense qu'il y a les deux, enfin je sais pas
Ouais.
Il y a les deux puis ça vient également la vie professionnelle vient après l'enseignement, enfin l'éducation vient après le temps passé en famille et les stéréotypes. Puis ils naissent, on commence à les intégrer dès la naissance.
Dès la naissance, je vais en reparler après.
Voilà, la fille va pleurer, on va la câliner, le garçon pleure, on va lui dire non, t'es costaud, t'es un mec debout. Allez, on va, voilà. Les filles ne sont pas faites pour faire les maths. Je crois que vous en parlez un petit peu après.
Oui, hein,
tous ces aspects-là font que les filles vont plutôt avoir tendance à se diriger vers des métiers de la relation, de la communication, de l'assistanat. Parce qu'on
donc
leur a fait comprendre depuis toujours que c'était pas possible ou que ce serait plus compliqué
Des maths. Alors comment est-ce qu'on lutte contre ça? Qu'est-ce que toi tu fais concrètement dans les entreprises justement pour lutter contre ça? Et puis tu as abordé la prévention primaire qui est jouée sur l'éducation dont je reparlerai après. Mais là concrètement dans les entreprises, comment tu agis toi?
Alors il y a l'aspect légal. Hein. Les entreprises à partir de 50 salariés ont des obligations légales à respecter. Donc la loi du 4 août 2014 a renforcé divers points en termes de négociation, etc. Donc on accompagne. Moi je travaille donc avec un cabinet Social Budard. On accompagne les entreprises sur ces divers éléments obligatoires pour lesquels il y a des sanctions si c'est pas respecté. Donc ça c'est l'aspect un peu obligatoire coercitif. Il faut le faire, point. Et l'autre aspect, c'est vraiment de travailler sur en profondeur sur la prise de conscience des stéréotypes, les rendre visibles, et que chacun se rende compte qu'il a. Donc tout à l'heure, Olivier parlait aussi de je veux embaucher quelqu'un pour un métier entre guillemets dit d'homme. Je vois une femme arriver, je me dis c'est pas normal. Donc en fait, de faire prendre conscience de ces stéréotypes tout le temps et comme on a et essayer de les déconstruire. Et donc de faire prendre conscience que c'est pas parce qu'un homme a des capacités de communication et sachant que des études ont montré que les hommes ont des capacités de communication, on les met en œuvre, mais on va pas forcément les voir. Enfin, quand on observe un homme, on va retenir que les aspects entre guillemets masculins de son caractère et éliminer les aspects entre guillemets féminins aussi. Donc voilà, les faire prendre conscience de tout ça, travailler sur la déconstruction de ces stéréotypes. Et puis, les transformer, en fait, les représentations sur les rôles des femmes et des hommes. Et du coup, parler des humains, ou sans attacher des caractéristiques à telle personne.
Ouais. C'est important ce que tu as dit juste avant là, sur le fait que quand on voit un homme, on va plutôt retenir ses caractères masculins, entre guillemets, et quand on voit une femme, plutôt ses caractères féminins. C'est ce que j'appelle moi un peu les biais cognitifs, parce qu'on ne se rend pas forcément compte qu'on les a, mais ça fausse notre jugement. C'est-à-dire qu'on ne voit que ce qu'on a envie de voir d'une certaine manière. Ça serait juste de dire ça.
Oui, parce qu'en fait, je pense que vous en avez peut-être parlé avant, le stéréotype, c'est une construction culturelle, sociale, qui permet de comprendre la société, et c'est réducteur.
Oui.
Donc, ce sont des traits saillants d'une personnalité, d'un physique, entre guillemets, d'une race, d'une nationalité, etc. Et du coup, ce sont ces traits-là qu'on va essayer de retrouver chez un homme. On se dit, c'est un homme, donc il doit avoir ces caractéristiques-là au plan professionnel.
D'accord.
Mais il a toutes les autres. Enfin, c'est un être humain.
Oui, oui. Mais elle passe un peu inaperçue, quoi. Elle passe un peu inaperçue.
Elle va au second rang, voilà.
Et moi, je ne sais pas si tu as remarqué, Sandrine, mais depuis tout à l'heure, que ce soit cet invité-là ou l'autre invité, hein, désolé, je suis plus néant parce que la première, je ne me souviens plus.
Cécile et Christelle.
Et Christelle, voilà. Alors, donc Cécile et Christelle, nos deux invités du jour, nous ont parlé à chaque fois d'études concernant les femmes ou les hommes pour voir s'ils ou elles étaient capables de faire quelque chose.
Oui.
C'est hallucinant qu'il faille quand même passer des tests ou faire des choses comme ça pour prouver quelque chose. Enfin, c'est bizarre.
Alors, mais
pour
c'est
prouver
juste...
qu'ils sont hommes ou femmes, d'accord.
Mais c'est justement
ça, c'est
parce
ce qu'on
que
les chromosomes, là.
C'est justement parce que notre vision
toujours...
des gens
oui.
et notre cerveau fonctionne de telle manière que notre jugement sur les gens est biaisé. C'est-à-dire que notre cerveau restreint. Ça, c'est un fonctionnement du cerveau qui est vrai tout le temps. Notre cerveau a tendance à restreindre notre perception et à ne mettre en évidence que les choses qui vont dans le sens de ce qu'il pense déjà.
Voilà.
Et il élimine notre cerveau inconsciemment. Oui. Il élimine un certain nombre d'informations
mais tout
sans
bêtement.
Qu'on s'en rende
mais
compte.
Je te comprends bien et c'est vrai, c'est ça. Mais je comprends pas juste une chose. Par exemple, moi, je suis pas mieux ou moins bien que quelqu'un d'autre. Et pourtant, je comprends pas le fait d'avoir fait une étude sur la façon de, enfin le pouvoir, la possibilité d'un homme de pouvoir être plus communicant, enfin tu vois ce côté-là.
En fait, l'étude en question, il faudrait que je retrouve, j'ai pas les coordonnées.
C'est pas grave.
Le principe c'était de demander à des managers d'identifier, de parler de leur manager, homme ou femme. Et spontanément, ils ont mis en avant, cet homme, il a du charisme, cette femme, elle est plutôt communicante, etc.
D'accord.
Et ensuite, on a les chercheurs qui ont fait l'étude ont demandé à ces managers de disséquer plusieurs comportements et plusieurs moments d'interaction avec leur manager, et en disant, à ce moment-là, il a fait quoi, il a communiqué, etc. Et en fait, ils se sont rendus compte, ces managers, que l'homme avait aussi des moments de communication, des moments d'empathie, des moments de pouvoir, etc. Et pareil pour la femme, qu'elle avait des moments de pouvoir,
d'accord,
des moments d'autorité. Et là, les managers se sont dit, en fait, ils font la même chose. Mais ce que je retiens, moi, de l'homme, c'est qu'il a du pouvoir et qu'il est plutôt autoritaire, et de la femme, c'est qu'elle est plutôt communicante.
Oui.
C'est ça, en fait. Et c'est là qu'on est dans la déconstruction, c'est d'aller plus loin que la première vision du stéréotype, en fait. Moi, ce à quoi je travaille en entreprise, mais aussi avec mes enfants, c'est de dire il faut aller plus loin que la première impression, entre guillemets, de la personne qu'on a en face de soi.
Oui, parce qu'effectivement, la difficulté, c'est quand on s'arrête à cette première impression
qu'on
agit en fonction de cette première impression et non en fonction de ce qui se passe réellement.
Oui,
en gros, c'est ça.
Je le comprenais pas comme ça, parce que c'est vrai qu'on pouvait avoir ce doute, se dire un petit peu, en gros, c'est l'explication, c'est dans un film, c'est l'homme des cavernes, l'homme sort, il va tuer le... Enfin, tu vois, et la femme est dedans et elle prépare le feu pour que ce soit...
Je vais déconstruire un stéréotype.
Dans la partie vie de
couple, je vais déconstruire un stéréotype. Je l'ai déjà déconstruit dans une précédente émission, mais je vais en reparler sur le désir féminin. Donc voilà.
D'accord.
On va terminer sur cette partie peut-être vie professionnelle. Ouais. En tout cas, Cécile, je te remercie.
Merci beaucoup
de ton intervention. Je sais que tu as un site qui est super intéressant où tu as mis plein d'articles qui s'appelle Féminin Business, hein, c'est ça ? féminin-business.com. Donc j'invite les auditeurs à aller jeter un œil parce que j'ai parcouru un certain nombre d'articles qui sont extrêmement intéressants au niveau ressources humaines et tout ça, mais je le remettrai là aussi sur la page de l'émission.
D'accord.
Merci beaucoup Cécile et puis au
merci
plaisir
aussi.
De te
et merci
retrouver.
À très bientôt alors.
Merci,
bonne continuation. Au revoir.
Donc oui, alors on reprendra l'émission dans quelques instants. Oui. Avant ça, une petite pause musicale. On écoute pour commencer Étienne Dao, Le Grand Sommeil. Yes. Il est 11h20, à tout de suite.
Les plus belles chansons sur Buget Radio.
De retour dans l'émission de Sandrine Donzel, c'est Entre nous. Et je suis toujours là, et toi aussi.
Mais oui, nous ne sommes pas encore tapés dessus, parce que nous n'étions pas d'accord.
Non, voilà, ça va, ça marche, ça fonctionne.
Donc, on a un vaste programme à couvrir en 30 minutes, chrono, oui, montre en main. Oui. Donc, on va essayer de faire vite, tout en parlant doucement, pour que vous être bien compris de tout le monde. Alors, je voulais juste rappeler, si vous avez des questions, le numéro de téléphone,
voilà.
04 57 29 04 18. Si vous me regardez sur Buget TV, je mets la main là parce que le numéro est écrit là-bas.
C'est ça.
Et l'email contact@budgetradio.fr. Alors, on a parlé dans la première partie de cette émission de un peu ce que c'était, les stéréotypes,
oui,
le sexe, le genre et tout ça. On a parlé de l'impact que ces visions pouvaient avoir sur la vie professionnelle. J'aimerais qu'on aborde peut-être rapidement, parce que j'aimerais qu'on aille sur l'éducation, mm-hmm, des enfants, parce que comme nous l'a dit Cécile, il y a beaucoup de choses qui se construisent à ce moment-là. Donc, de l'impact de ces stéréotypes, je viens de mettre un coup de main dans le micro.
Ça t'a pas fait mal?
Non, ça va.
Alors, c'est le principal.
Ça a peut-être fait mal aux oreilles des auditeurs, mais pas,
j'ai
ma
pas
main.
Entendu,
bon, ça va. Donc, l'impact aussi de ces stéréotypes dans, oui, la vie du couple.
Oui.
Alors, il y en a plein. Enfin, on a vu l'histoire de, voilà, c'est plutôt les femmes qui vont s'occuper des enfants. Et du coup, on va se restreindre un peu dans notre vie
c'est
professionnelle.
C'est presque traditionnel, finalement.
Oui, c'est très culturel,
oui,
finalement.
Oui, c'est culturel, oui.
Bon. C'est assez aussi spontané, mais il peut arriver que des hommes aussi aient envie de s'occuper des enfants. Et comme tu le disais justement, toute la difficulté, c'est que si on a intégré que parce qu'on est un homme, on est moins compétent pour s'occuper, mm-hmm, des enfants, eh ben on va peut-être pas y aller parce qu'on va avoir peur de pas le faire comme il faut.
D'accord.
Tu vois ? Donc on va se restreindre alors qu'on en aurait envie.
Oui, voilà,
juste
y a une
envie
quand même.
Parce qu'on a peur de pas être à la hauteur et plutôt pour le bien des enfants, d'une, mm-hmm, certaine manière, enfin dans notre tête. Enfin,
ben
tu vois,
oui.
Si t'es un homme et que tu te dis ça.
Oui, c'est normal. Ouais.
Et puis, si la femme, elle, de son côté, a aussi intégré ce stéréotype-là, mm-hmm, elle va du coup stresser, mm-hmm, que le papa s'occupe
elle
pas
va
bien
dire, voilà,
des enfants.
Ça va pas être bien, tout le,
voilà,
reste.
Exactement. Donc, quand elle va être à côté du papa,
oui,
elle va être un peu en tension, comme ça, à surveiller tout ce qu'il fait. Et donc, qu'est-ce qui se passe fort logiquement? Si je suis là à regarder tout ce que tu fais, à vérifier d'un air suspicieux, mm-hmm, tu vas être un peu en stress.
Ah bah oui, c'est normal, oui.
Tu vois, tu vas dire,
bah
oui, ah, et du coup, tu vas
laisse
faire moins
faire,
bien.
Quoi.
Tu vas ça, faire bah moins, oui, bien. Ça va t'énerver ou ça va te faire peur.
On va se tromper, on va faire des bêtises, on va faire ce qu'il ne faut pas.
Exactement. Donc, il faut se méfier de ça et ouais, peut-être, en tout cas, au début, laisser à chacun faire ses preuves,
oui,
sans trop essayer de dire c'est comme ça qu'il faut faire ou c'est pas comme ça qu'il faut faire. Laisser, mm-hmm, un peu chacun faire son expérience, parce qu'on,
d'accord,
apprend en faisant son expérience. Donc ça, c'est, on va dire, pour la maison en général. Il faut savoir, par exemple, que dans les tâches ménagères, à aujourd'hui, on a encore, je crois, 80% des tâches ménagères qui sont gérées par les femmes.
Ah oui, oui. Oui, c'est oui, mais oui, j'en doute pas, hein,
c'est
finalement.
Énorme.
C'est
énorme.
Ouais.
C'est énorme. Ce qui fait que, par exemple, une femme qui veut s'investir professionnellement, eh ben, elle a beaucoup de boulot en plus à la maison.
Mmh.
Alors, évidemment qu'il y a des couples qui ont discuté,
ouais,
cet équilibre et qui, du coup, gèrent un peu différemment.
Oui, parce que ce n'est pas que la faute de l'homme ou de la femme, parce que finalement, les deux sont présents dans l'histoire. Et du coup, la femme peut refuser tout simplement que l'homme le fasse parce que, par peur que ce soit mal fait,
oui,
ce que dit souvent ma femme. Je le dis en connaissance. Non, mais c'est
peut-être
pour
vrai,
ça,
hein,
j'ai pas, j'ai pas de bêtises, j'ai dit ce que je sais de moi, de mon couple. Et par contre, moi, de temps en temps, je lui dis, tu veux pas que je fasse ça, que je te dépanne là-dessus, je te fais au moins la vaisselle, les machins, les trucs comme
alors,
ça. Non, je préfère.
J'attire, alors, deux choses. Ça peut être vrai, c'est-à-dire que, mm-hmm, celui qui n'a pas l'habitude de faire telle ou telle tâche peut être maladroit.
Oui.
C'est normal.
Sauf que.
T'es en train d'apprendre.
Honnêtement, je ne suis pas maladroit. et elle en doute.
Mais je ne discute pas,
bah
ça.
Oui.
C'est,
bah
je
oui,
suis,
mais c'est vrai.
Je te crois.
Mais
à
c'est
fait
possible de pas, sans avoir l'habitude, on peut faire mal quelque chose, mais sans faire exprès.
Mais parce qu'on ne sait pas faire, on apprend.
Bah oui.
Et donc c'est en faisant qu'on apprend.
Ouais.
Donc si on laisse jamais faire, eh ben on
n'apprendra
jamais.
Tu forges beaucoup, toi.
On a par...
Tu forges beaucoup. Non. C'est en forgeant qu'on devient forgeron.
J'ai fait un peu de soudure à l'arc et tout ça quand j'étais étudiante.
D'accord, ok. Moi aussi j'en avais fait.
Je suis ingénieur en mécanique, donc si tu
veux. Et moi j'en avais fait, mais je sais même pas pourquoi, parce que j'ai jamais fait d'ingénierie mécanique moi.
C'était des cours en atelier. Enfin bref. Donc tout ça pour dire que si on s'arrête à ce stéréotype, ah c'est un homme, il saura pas faire.
Ouais, c'est vrai.
Dans l'éducation des enfants, par exemple, il faut savoir que tout ce qui concerne la vie scolaire, c'est en grande majorité les femmes qui s'y collent. Et alors, par exemple, quand on remplit les fiches de renseignement, il y a les numéros de téléphone. L'école de mes enfants, par exemple, m'appelle systématiquement moi en premier. Enfin, ils ont compris maintenant que j'étais pas disponible, donc ils appellent mon mari.
D'accord.
Mais au début, on appelle la maman en premier parce qu'on a dans l'idée que bah, c'est la maman qui va venir.
Mais c'est pas logique finalement.
Voilà. Et du coup, si on n'est pas disponible, on commence à culpabiliser parce qu'on se dit bah mince, alors les autres mamans, c'est elles qui le font et tout. Enfin, tu vois, c'est un vrai cercle vicieux. Donc, ça demande un truc.
Est-ce que par exemple, pour revenir sur ça, est-ce que tu laves la voiture par exemple plus que ton mari ou pareil?
On lave pas la voiture, nous. Mais...
elle est auto-nettoyante, la voiture.
Non, mais...
ou elle est sale, au choix.
On la lave très peu à la maison parce que ça pollue, enfin les eaux, voilà. Donc d'accord. On va dans les stations de lavage, on la lave très 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 rarement.
Et au cas où, le plus souvent, c'est qui, on va dire?
Les enfants.
D'accord, je m'attendais pas à cette réponse, effectivement. On va dire, voilà, dans un couple, outre les enfants, on va dire.
Si nous n'avions pas les enfants à exploiter, on va dire.
Ouais.
Bah écoute, ça dépend de qui est disponible, qui a envie de le faire et qui est disponible.
Parce que moi, je trouve ça bête de dire, enfin, c'est chacun son truc après, hein, je ne juge pas, mais pour moi, pour ma part, je ne comprendrais pas pourquoi ma femme n'a pas le droit de faire le ménage dans la voiture et de laver la voiture à l'extérieur. Sous prétexte que non, ce sera mal fait, alors non, elle a l'habitude de faire du ménage.
C'est exactement comme avec les enfants.
C'est exactement pareil. Enfin voilà, je trouve ça bête. Et puis surtout, c'est hyper sexy une fille qui fait le lavage de voiture.
Surtout si son t-shirt est mouillé, c'est ça.
Mais attends, écoute, c'est normal.
On va parler de ça. On va parler de ça justement. Pas de t-shirt mouillé, mais de désir sexuel.
Oui.
Il y a un stéréotype assez couramment répandu dans notre société actuelle qui est que les femmes auraient moins de désir que les hommes sexuels, notamment dans les couples.
C'est ce qui paraît.
Bien.
Est-ce que c'est vrai ou pas vrai?
Alors, c'est peut-être vrai, c'est probablement vrai, mais je ne pense pas que ce soit lié à la nature féminine ou masculine.
Voilà, c'est pas les organes, c'est pas les chromosomes et tous ces trucs-là.
C'est plus une construction relationnelle et sociale. D'accord. Je t'explique pourquoi je dis ça. Est-ce que tu sais qu'au 19e siècle et avant, c'était l'inverse? C'est-à-dire que les femmes étaient réputées pour avoir beaucoup plus de désirs sexuels que les hommes. Elles passaient pour des affamées du sexe, insatiables et tout ça.
Bah oui.
Donc, comment se fait-il qu'en un siècle, boum, ça y est, les femmes aient perdu leur désir sexuel?
Je ne sais pas du tout.
Bon, je ne sais pas non plus, on peut émettre quelques hypothèses. Non, mais parce que c'est un sujet qui est compliqué. Ouais. Mais toujours est-il que le constat qu'on peut faire, c'est que quand, au 19e siècle, les femmes étaient réputées pour avoir plus de désir sexuel, c'était une raison pour les laisser à la maison. C'est-à-dire qu'on disait, comme elles sont un peu hystériques et qu'elles n'arrivent pas à se contrôler, il vaut mieux qu'elles ne soient pas impliquées dans la vie publique parce que ça pourrait les amener à prendre des décisions irrationnelles et pas du tout justes. Oui. Donc, laissons-les à la maison, c'est les hommes qui votent.
Ils pensaient bien finalement.
Attends, c'est les hommes qui votent, c'est les hommes qui décident parce qu'ils sont rationnels, ils réfléchissent et tout ça. Donc, c'est ce qu'on disait jusqu'au 19e siècle. Et puis, les choses ont basculé progressivement et les femmes sont devenues celles qui avaient le moins de désir sexuel. Alors, paradoxalement, maintenant, qu'est-ce qui se passe du coup, eh bien, le fait d'avoir du désir sexuel est vu comme une marque d'avoir envie d'être conquérant, d'avoir du pouvoir. Et donc, c'est pour ça que c'est plutôt les hommes qui vont dans les affaires parce que c'est eux qui veulent décider.
Moi, je pensais plutôt... tu vois, là, tu m'apprends quelque chose parce que c'est vrai que j'étais plutôt dans le style où... Même... carrément, la personne qui a un appétit sexuel débordant, on va dire, serait plutôt du style à être plutôt maladroit dans tout. Du coup, il pense qu'à ça. Enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est plus ça.
Ouais,
je le voyais pas du tout comme ça, mais c'est vrai.
C'est pas ça l'image classique. D'accord. Effectivement. Enfin, je comprends qu'on puisse le voir comme ça, mais c'est
un peu bestial, quoi. Tu vois ce que je veux dire.
Oui, mais dans le côté bestial, tu vois, il y a cette espèce de volonté, cette espèce d'arrivée malgré tout.
Oui, mais par contre, pour arriver haut, moi, tu vois, pourquoi je me dis ça, c'est que pour arriver haut, du coup, il faut quand même avoir des capacités.
Ouais.
outre le sexe et tout ce que tu veux. Hein.
Oui, oui, oui.
Mais non, c'est pour ça que je pense.
Mais il y a une espèce d'énergie vitale,
c'est pas bête,
tu vois,
ouais.
De je vais y aller, je vais dépasser les obstacles pour arriver à mon objectif.
Encore un stéréotype, du coup.
Qui est plutôt valorisé. Mm-hmm. Et du coup, c'est pour ça qu'on justifie le fait que, bah, comme les femmes sont plus raisonnables, sont plus posées et tout ça, il vaut mieux qu'elles restent à la maison pour s'occuper des enfants.
Et qu'elles fassent moins de sexe.
Donc on trouve toujours une bonne raison pour laisser les femmes à la maison, tu vois.
D'accord.
C'est ça qui est incroyable.
Oui, mais du coup, tout est fait pour elles, à la maison. Ben, regarde. Le balai, non, je plaisante, je vais me recevoir de ses insultes.
Oh là 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 là,
ça va être énorme.
Il envoyait des tonnes d'emails à Olivier.
Elle s'amuse là. Non, je plaisante bien sûr. Non, n'envoyez rien à part pour commenter l'émission en bien pour Sandrine.
Voilà. Ou en mal pour nous dire ce qu'on a.
Ou en mal, ouais, voilà. Il n'y a pas de souci.
Bon, non, mais c'était quand même une plaisanterie. Donc tout ça pour dire que ces stéréotypes, ils ont une forte influence sur la façon dont on se comporte l'un avec l'autre.
C'est vrai.
Il y a un autre stéréotype qui est justement comme les hommes croient que avoir du désir sexuel, c'est une marque de.
Oui, de puissance, quoi. De
puissance.
Ouais. De supériorité, quoi.
Voilà, ils vont plutôt. Être tout le temps en quête de ça, d'une certaine manière.
En quête de demande, surtout. C'est vrai, oui.
Et alors, inversement, quand dans un couple, moi, j'accompagne beaucoup de couples, et quand dans un couple, c'est la femme qui a plus de désir que l'homme...
Le couple casse, des fois.
Peut arriver, mais quand la femme a moins de désir aussi, ça peut arriver que ça casse. Hein, mais quand la femme a plus de désir que l'homme, en fait, ce qu'elle raconte, ces femmes-là, c'est « je me sens extrêmement honteuse, humiliée, parce que je me considère comme pas normale. »
D'accord.
Ce qui est incroyable.
Ah ouais.
Ce qui est incroyable.
Oui, bah ouais, parce qu'elle a le droit d'avoir le désir qu'elle veut. Enfin,
surtout, elle
n'y
est pour rien, quoi.
Ouais. Non, mais c'est vrai.
Voilà, et ça renvoie une image extrêmement négative des femmes. Une femme... Un exemple, un garçon qui va, un jeune homme, un adolescent, qui va avoir beaucoup de conquêtes féminines, qui va sortir avec beaucoup de filles, il est plutôt bien vu.
Ah oui, c'est un beau gosse.
C'est le beau parleur, le don Juan qui séduit. Une fille qui a le même comportement et qui multiplie les partenaires.
Je ne pourrais pas dire le nom. C'est ce qu'on dit.
Mais on peut
c'est vrai.
On peut le dire, je pense.
Mais en bas, on dit c'est une cagole, quoi.
Ouais.
Voilà. Dans le sud, on dit ça.
C'est une salope, quoi.
C'est ça, exactement. Hein, traduit littéralement, c'est comme ça.
Voilà. Alors pourquoi est-ce que d'un côté c'est valorisé et de l'autre c'est mal
vu ? Ça, c'est hallucinant quand même. Mais c'est vrai que ça, moi, c'est parce que je suis quelqu'un de bien aussi. Mais bon. mais c'est vrai que je trouve ça vraiment anormal parce que. Je dirais pas que cette fille a plus d'envie. Alors oui, voilà, si elle est là juste pour se montrer et faire de la sexualité en public, voilà, non, là, ça n'a rien à voir.
Pas forcément de public. Mais...
Voilà, moi, je parle vraiment de ça. Là, on peut considérer ce qu'on veut. Je m'en fiche puisque je pense un peu presque comme ça. Mais par contre, si c'est juste un désir personnel qu'elle a envie souvent de sexualité, tant mieux, quoi.
Tout simplement qu'elle y prend du plaisir.
Mais voilà. Et c'est certainement pas un choix, je pense. C'est physique après. Donc voilà, non, moi je dis rien.
Donc, mais d'une manière générale dans la société, c'est assez mal vu.
Oui, c'est vrai.
Donc, tu vois, et ça a un vrai poids sur la façon dont les femmes vont envisager leur sexualité, par exemple.
Oui, et puis
et les hommes
aussi,
d'ailleurs.
Tout, ça doit être gênant après. Hein, ça doit les bloquer pour beaucoup de choses. Hein.
Bah, oui, parce qu'après on a une image, dégradée, mais du coup.
Même à l'intérieur de sa propre tête,
on
se donne une image, et du coup, on a l'impression que les autres voient cette image.
Exactement.
Ouais, c'est vrai. Ouais.
Et du coup, mais les hommes aussi, d'une certaine manière, ça les handicape parce qu'ils s'imaginent des choses à propos d'eux qui sont peut-être pas vraies.
Bah oui.
Et du coup, ils vont peut-être parfois se forcer à faire des trucs, à avoir l'air d'avoir envie, alors qu'en fait, au fond d'eux, pas tellement.
Bah oui.
Et moi, dans les accompagnements de couple, je constate souvent qu'il y a des difficultés dans les couples qui sont liées à une sexualité qui n'est pas forcément justement appréhendée comme de quoi est-ce que j'ai envie, de quoi est-ce j'ai pas envie, comment est-ce que je peux donner envie à l'autre, qui est plutôt appréhendée dans moi je suis un mec, j'ai besoin de sexe. Alors, pour généraliser, parfois c'est l'inverse, mais en gros il y en a un qui a besoin de sexe et l'autre qui devrait être tout le temps en train de freiner parce qu'il a moins envie. Et on peut le voir, on peut le gérer un peu autrement en se reconnectant justement à nos envies et pas s'imaginer que parce que on est un homme, on doit
il faut
du sexe,
en gros assurer quoi. Non, c'est pas ça.
Et souvent, j'allais dire en laissant tomber la pression sur le sexe, on réussit à en avoir plus, paradoxalement.
Ah oui, mais c'est vrai en plus. Ça, c'est comme quand on a énormément envie d'avoir un enfant et qu'on n'y arrive pas et que d'un seul coup on n'y pense plus du tout et on se dit non, on va se consacrer au travail. Ouais. Bah, finalement, on a plein d'enfants qui arrivent.
Alors c'est difficile de dire ça parce que c'est un peu culpabilisant parce qu'on maîtrise pas dans notre tête, mais on peut créer le contexte pour... On en avait parlé un peu dans l'émission sur le couple.
Je
sais pas
c'est
si
vrai.
Tu te souviens.
Oui, je me souviens.
Si les gens veulent l'écouter en replay, il y a l'article sur le blog aussi. Bon, on va peut-être parler maintenant quand même de l'éducation des enfants. parce que c'est un peu là que tout démarre.
Oui, oui, parce que finalement, c'est l'apprentissage. Donc, l'apprentissage, c'est primordial pour la vie, quoi.
C'est
et puis
ça.
Voilà.
Et c'est là
primordial, c'est prime, c'est devant.
C'est ce qui commence, c'est ce qui démarre. Ouais. Et c'est là que prennent naissance un certain nombre de stéréotypes. Je vais te raconter deux expériences, enfin, je vais vous raconter, à vous qui écoutez aussi, deux expériences qui sont extrêmement intéressantes. La première, c'est l'expérience dite du pyjama jaune. Donc, mais je crois que je l'avais déjà raconté.
Mais... Il me semble, mais je suis...
Mais c'est pas grave, je vais la redire dans une émission précédente.
Ouais.
Donc, on prend un bébé en pyjama jaune de quelques mois qui a un sexe indéterminable par des signes extérieurs. C'est-à-dire on ne peut pas voir si c'est un garçon ou une fille. Tu sais, à quelques mois, c'est quasiment impossible.
Oui.
Et on l'habille de façon neutre. OK ? C'est-à-dire jaune, pour le coup, parce
c'est
que
vrai,
c'est ni une couleur de garçon, ni une couleur de fille.
Oui, c'est ce qu'on s'est dit, c'est pas ça. Voilà. C'est pas du jaune qui va représenter l'un ou l'autre.
Voilà. Et donc, on filme ce bébé. Donc, au début, ce bébé gazouille, rigole, et puis au bout d'un moment, il se met à pleurer. Et on diffuse ce film à des gens, et on leur demande d'écrire le bébé, et puis après, de dire pourquoi est-ce qu'il pleure. Et qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on constate ? C'est que les gens décrivent... Quand on leur dit « ce bébé est un garçon, vous allez devoir le décrire et dire pourquoi il pleure », les gens disent majoritairement, donnent majoritairement des caractéristiques psychologiques, c'est-à-dire « il est éveillé, il est tonique ». Et quand on leur demande pourquoi est-ce que ce garçon pleure, ils disent « c'est parce qu'il est en colère ».
D'accord.
Et quand on leur dit ce bébé est une fille,
bah c'est le râle.
Alors que c'est le même bébé, hein, c'est le même bébé, c'est le même film. Ce bébé est une fille. Décrivez-la, ils disent elle est jolie, elle est mignonne, elle est douce, enfin voilà. Et quand on leur dit pourquoi est-ce que cette petite fille pleure, ils disent c'est parce qu'elle a peur.
D'accord. Ah
donc
ouais.
Tu vois que le simple fait de penser que ton bébé a tel ou tel sexe va conditionner ton comportement.
Ben, je pense qu'il vaudrait mieux dans ce cas-là dire tout simplement est-ce que d'après vous c'est un garçon ou une fille ? Et dans ce cas-là pourquoi il ou elle pleure ? Ben, on va dire vu que le bébé pleure c'est une fille. Non, là j'ai vraiment.
Oh,
c'est méchant.
Ah, tu vas te faire des ennemis
aujourd'hui.
Oh, c'est
une petite blagounette.
Mais tu vois,
non, mais
ça c'est représentatif du fait que
c'est
tu
vrai,
sais
c'est
à l'avance
ça.
Quand le bébé est un garçon ou une fille, enfin quand t'as un enfant, et ça va conditionner ton comportement. C'est-à-dire que du coup, si c'est une fille et qu'elle se met à pleurer, tu vas plutôt la prendre dans tes bras et lui dire « Oh ma chérie, apaise-toi, enfin voilà, je suis là ». Et donc, ce faisant, tu crées quelque chose d'agréable pour elle et donc tu renforces ce comportement. C'est-à-dire « je vais pleurer plus facilement parce que ça m'amène quelque chose d'agréable ». Tu vois ? Et c'est là où, ben, du coup, tu apprends aux filles à exprimer leurs émotions.
Ouais.
Le garçon, il pleure parce qu'il est en colère. Oh, dis donc, ça va, hein ? Tu vois ? Et donc, tu crées quelque chose de désagréable et du coup, tu renforces négativement ce comportement. Et ça va être, quand je ressens une émotion, il vaut mieux pas que je la dise parce que sinon, je me fais un peu remballer, entre guillemets.
D'accord. Tu vois, et la majorité des gens fait ça, quoi.
Oui. Il y a d'autres expériences qui ont été menées, par exemple, avec des enfants un peu plus grands, des bambins, tu vois, entre un an, deux ans.
Oui.
Pareil, on les habille de telle façon qu'il soit impossible de déterminer si c'est un garçon ou une fille. Et on les met dans une pièce avec un adulte et on met des jouets. Et on met des jouets plutôt typés masculins dans la tête des gens, des petites voitures, des jeux de construction, je vais y revenir après. Et puis, on met des jouets plutôt typés féminins, des poupées, voilà, des choses comme ça. Et qu'est-ce qui se passe en majorité ? L'enfant rentre dans la pièce, que fait l'adulte ? On lui dit, voilà, je vous amène un petit garçon, jouez avec lui. Qu'est-ce qu'il fait l'adulte, à ton avis ?
Eh ben, il va essayer de dire, t'es un petit garçon ou une fille ? Non ?
Non.
Ah, il
ne peut pas poser la question.
Ah, mince. Ah, tu vois, je dis mince parce que moi, c'était plus pratique pour moi, du coup. Alors, en l'occurrence, là, il faudrait trouver une parade. Donc,
En gros, spontanément...
Proposer, tu veux jouer aux poupées ou...
La plupart des adultes
vont
prendre les jouets de garçon s'ils pensent que c'est un garçon.
Ah oui, voilà, parce qu'on pense que c'est un garçon.
Proposer à l'enfant ces jouets-là.
Ah non, moi, je vais plutôt proposer. Je vais dire, tu préfères les poupées ou les voitures ?
Mais la majorité des gens ne fonctionne pas comme ça.
Ah ouais, d'accord.
La majorité des gens va proposer des jouets de garçon, quand même l'enfant s'orienterait vers les autres. Et inversement pour les filles.
D'accord.
Donc tu vois, là aussi, tu crées une espèce de renforcement.
Ah bah oui, là, complètement,
Si l'enfant garçon s'oriente vers la poupée et qu'on lui dit « Mais non, viens, regarde, il y a des voitures là, les poupées, c'est pas pour toi. »
En gros, tu l'encastres et tu le fiches dans ce style.
Voilà.
Enfin,
Et au bout d'un moment, on va renforcer. Un jour, ma fille m'a posé cette très jolie question. Elle m'a dit « Dis, maman, pourquoi est-ce que le garçon joue au foot et pourquoi les filles font de la danse ?»
Bonne question, justement.
Oui, alors, c'est difficile de savoir, peut-être qu'il y a une envie, voilà, mais cette envie, elle peut être aussi construite. C'est-à-dire que, imagine-toi que tu es une fille et que tu veux faire du foot. Alors maintenant, c'est plutôt encouragé, donc ça se passe mieux.
Ouais. Mais ça dépend où encore.
Voilà. Hein. Mais tu commences à jouer au foot. Oui. Et alors, si tu es un garçon et que tu veux faire de la danse, alors là.
Oui, bah oui.
Bon, tu commences.
Il faut pas le dire à l'école.
Tu commences à vouloir pratiquer cette activité. Et puis, on te dit, mais non, mais ça, c'est pas pour les garçons. Voilà.
D'accord.
Tu vois. Et ça, du coup, on va un peu te décourager. Tu vas avoir moins d'occasions de pratiquer, moins d'occasions de t'entraîner. Ou alors, ça va te demander vraiment beaucoup d'efforts pour convaincre que c'est vraiment ça que tu veux.
Et dans ce cas-là, peut-être, voilà, on va contrer le truc et puis le faire à fond de notre côté et puis se débrouiller d'arriver mieux que les autres.
Mais
et ça, c'est la force de volonté, justement.
Oui,
la
mais
force
c'est rare.
C'est
statistiquement,
très, très
rare. C'est-à-dire les gens qui ont tellement envie qu'ils vont tenir jusqu'au bout, surtout pour un enfant face à des adultes. C'est quasiment impossible. Il y en a très peu qui arrivent.
C'est normal.
Donc, la majorité vont plutôt, petit à petit, se décourager. Ils vont pratiquer moins. Par exemple, si je suis une fille et que j'ai envie de jouer avec un ballon et qu'on va me dire, mais non, viens plutôt jouer à la poupée. Comme je pratique moins, je m'entraîne moins, donc je suis moins bonne que les garçons. Donc, au bout d'un moment, je laisse tomber parce que c'est pas agréable de faire une activité dans laquelle on n'est pas compétent.
Tu vois,
la façon dont on peut construire et renforcer des stéréotypes tout au long de la vie.
Mais après, c'est vrai qu'on a tendance à mettre ça maintenant sur le fait qu'on se dit oui, mais le garçon est plus prédestiné, on va dire, à jouer au foot parce qu'il est plus fort là-dessus, il a une sorte de don, quoi. La plupart du temps, on entend des gens parler comme ça. Je parle du garçon comme je pourrais parler de la fille pour la danse. Je trouve que ça, c'est dommage, justement. C'est un truc où il faudrait un petit peu changer la chose, quoi.
Mais je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que c'est dommage parce que ça ne laisse pas à l'enfant la possibilité
d'explorer
ce qu'il a envie de faire et ce pourquoi il est doué. Tu vois ? Après, il y a des peurs aussi derrière ça. Par exemple, un garçon qui va jouer à la poupée, les gens ont peur.
C'est vrai, Oui, en majorité, les gens ont peur, c'est ça.
Qu'ils deviennent homosexuels ou quelque chose comme ça.
Ah oui, mais c'est ça. C'est ce qui se dit le plus souvent possible. C'est pas logique, mais c'est ça,
Mais sauf que peut-être que simplement jouer à la poupée, c'est
simplement,
s'exercer
il aime
à
le corps
devenir
d'une
parent.
Femme aussi.
Mais jouer à la poupée, c'est s'exercer à devenir parent.
Oui.
Donc peut-être qu'il peut devenir homosexuel, mais peut-être aussi qu'il peut devenir un bon papa, qui saura s'occuper d'un bébé pour le coup.
Ouais,
tu vois ce que je veux dire ?
C'est vrai.
J'ai dans mes amis une maman qui a 3 enfants, dont 2 garçons. Et le deuxième est fan de poupée Barbie. Donc il a 5 ans là. Et il est fan de poupée Barbie depuis qu'il est tout petit. Voilà, il adore, ils vont dans les vide-greniers, il veut toujours acheter des Barbies et tout, il en a plein, il joue avec ça, il joue aussi à d'autres jeux. Et son papa me dit, en fait, il a trouvé le bon plan parce qu'à l'école, du coup, il a plein de copines.
Mais tu vois, mais c'est possible qu'après, il y ait ça
aussi. Qui sont fans de lui, qui le trouvent.
Et du coup, il se dit, c'est encore mieux, écoute, on va continuer.
Pour draguer les filles. Enfin, on lui prête là des intentions qu'il n'a peut-être pas à cet âge-là. Tu vois, pour te dire que peut-être on se bloque pour des trucs qui
n'en valent pas la peine.
Pas lieu d'être.
Et puis même, quand bien même si devient ce qu'il veut ou ce qu'il sera, tout simplement, plus facile à exprimer comme ça, c'est son choix. Enfin, je veux dire, il fait ce qu'il veut, quoi.
Alors, c'est pas vraiment un choix, c'est ça le problème.
Non, mais c'est un choix de vouloir jouer à tel truc ou quoi. Voilà.
Mais alors, après, par rapport par exemple à l'homosexualité, tout, la plupart
des gens pensent que c'est un
choix, mais ça, c'est pas un choix.
C'est pour ça que j'ai bien précisé, j'ai dit il deviendra ce qu'il veut ou ce qu'il sera.
C'est ça.
Ce qu'il voudra ou ce qu'il sera.
On peut jouer à la poupée quand on est petit.
Ben oui.
Et devenir un papa comme les autres.
C'est ça.
On peut jouer à la poupée et aux voitures en étant petit et devenir aussi homosexuel. Il n'y a pas de rôle de prédiction de l'un par rapport à l'autre.
Non, c'est clair.
Autre chose, sur les jouets, quelque chose d'extrêmement important. Quand on va dans les magasins de jouets, à de rares exceptions près, ils sont très sexués. Il y a des rayons filles, il y a des rayons garçons.
Oui.
On retrouve dans les rayons filles les poupées, les panoplies pour faire le ménage, pour faire la cuisine et tout ça. Et dans les rayons garçons, plutôt les jeux scientifiques, plutôt les jeux de voiture et tout.
Oui.
Et donc là aussi, on construit une certaine représentation dans la tête des enfants. Parce que du coup, une petite fille qui veut acheter un jeu scientifique, elle est obligée d'aller au rayon garçon. Ah ben ouais, mais moi, je suis pas un garçon. Et alors pire, qu'est-ce qu'il y a sur les boîtes de jouets ?
Des garçons sur les jeux de garçons et des filles sur les jeux de filles.
Le petit scientifique, c'est pas la petite scientifique, tu vois, il y a une panoplie, ça s'appelle le petit scientifique.
D'accord.
Pire que ça, sur la photo, sur la boîte, celui qui manipule, c'est un garçon, et derrière, en blouse, qui lui apporte le truc, là, l'assistante, c'est une fille. Donc ça, ce sont des images qu'on emmagasine.
Bah après, c'est ce qu'on voit. Oui, c'est représentatif de ce qui se passe adulte. Tu vois,
oui,
ce que je veux dire.
Mais peut-être que ce qui se passe adulte est le résultat de ce qu'on a engrangé quand on est petit.
C'est possible aussi.
C'est pour ça qu'agir sur l'éducation des enfants... alors, il y a beaucoup de gens...
Tu penses que ça peut gêner justement pour l'enfant qui devient adulte, justement?
Oui.
Oui, ça peut gêner. Ça
parce
peut
que c'est comme ça qu'on construit une certaine identité.
D'accord.
Et après, on se sent en décalage. Nous, on a envie de faire un truc scientifique, mais en même temps, on nous dit les
sciences. Et ça peut bloquer à ce moment-là.
Oui.
D'accord, ok.
Ça peut bloquer parce que du coup, on n'imagine même pas que c'est possible de le faire.
Bah oui.
Tu vois ?
Je comprends, oui.
Parce qu'on se dit, ouais, mais ça, c'est un métier de garçon, par exemple.
Oui, oui, oui.
Et dans l'orientation, mais ça peut être bloquant, quoi.
Alors, c'est vrai que, bon, je ramène toujours le cas à moi-même, hein, à ma propre personne, comme tu le sais. Mais c'est vrai que. Moi, par exemple, je me dis pas ça. C'est-à-dire que même petit, je voulais jouer à n'importe quoi, je m'en fichais un petit peu. Bon, j'adorais les voitures, certes, mais voilà. S'il y avait un poupon ou n'importe quoi, mais je jouais aux poupées aussi. Je me souviens que chez mes grands-parents, je jouais aux poupées, quoi.
Mais tant mieux.
Et ça me dérangeait pas, je trouvais ça génial. Il y avait un robot et une poupée, je jouais avec le robot et la poupée, tu vois. Et pourtant... je me souviens bien de ces trucs où il y avait l'habit de l'infirmière avec le médecin et tout ça.
Ouais.
Il y avait le médecin et l'infirmière, tu vois ce que je voulais
oui.
dire. Ça m'a jamais gêné parce que je me suis dit, si je deviens infirmier, je deviens infirmier, ou si je deviens même médecin, je deviens médecin. Ça, pour moi, ça m'a jamais gêné. Effectivement, je comprends ce que tu veux dire, que ça peut gêner ceux qui se sentent un petit peu... je dirais pas qu'ils sont naïfs ou quoi que ce soit, mais qu'ils se sentent plutôt obligés de faire ce qu'on leur dit.
De se conformer.
De se conformer, exactement.
Et les enfants, dans leur majorité, ils essayent plutôt de se conformer
d'accord.
aux attentes que les adultes autour d'eux ont.
D'accord.
C'est-à-dire que si l'enfant perçoit que les adultes autour de lui attendent de lui, par exemple un garçon qui soit fort,
ouais,
qui pleure pas,
voilà.
il va essayer de le
d'accord.
faire, quitte à être en lutte avec lui-même et du coup
être
mal. C'est ça qui est difficile, parce que non seulement ça construit des stéréotypes qui vont avoir un impact sur la vie professionnelle, sur l'égalité.
Du coup, important, oui. Bah oui.
Voilà. Mais en plus, ça peut être nuisible à titre personnel. C'est-à-dire qu'il y a des études qui ont prouvé que les stéréotypes de genre, c'est-à-dire s'imaginer que les garçons doivent être comme ci et les filles comme ça, ça crée des malaises psychologiques.
D'accord.
C'est-à-dire il y a un fort taux de suicide, par exemple, chez les jeunes,
ah oui.
qui est lié à l'homosexualité.
D'accord.
Parce que les jeunes ados, notamment les garçons, se retrouvent, sentent qu'ils sont attirés par
d'autres garçons. Ils ne se reconnaissent pas parmi les autres, finalement.
Voilà, ils sont attirés par d'autres garçons. Ils ont des comportements qui sont plutôt qualifiés de féminins. Et donc, ils sont mal vus et ils sont rejetés pour cette raison. Et ça crée un taux de suicide non négligeable chez les jeunes. Donc, il faut le
d'accord.
savoir. C'est-à-dire que ces images de genre ont un impact de santé publique réel.
D'accord. Oui, c'est vraiment... Voilà, c'est important pour le futur. Surtout, pensez à ça quand vous éduquez votre enfant, tout simplement.
Mais oui, c'est aussi pour lui donner la liberté d'être
ce qu'il est.
A envie d'être.
Ce qu'il est, tout simplement.
Voilà,
c'est même pas l'envie, parce que l'envie, ça peut être un choix aussi fait par les autres.
Ouais.
Tu vois, l'envie, ça peut devenir
oui,
comme ça.
Mais
je pense que c'est même physique. C'est à l'intérieur de l'enfant. Ça doit sortir comme ça, c'est comme ça.
C'est ça. Mais du coup... quand je parle d'envie, c'est la traduction de effectivement
de ce qui ressort de lui, de l'enfant.
Voilà ce vers quoi je suis portée spontanément. Et donc ça, c'est important. Du coup, un enfant qui va aller plutôt vers telle activité ou telle activité, de lui poser la question, de lui dire comme tu le proposais, c'est-à-dire de pas dire bah tiens, tu dois jouer à ça parce que t'es un garçon ou à ça parce que t'es une fille, mais qu'est-ce que t'as envie de faire?
Ben oui, tout simplement. Ouais.
Moi, je me souviens quand mon fils est rentré en maternelle, on avait fait une visite quelques semaines avant la rentrée, au mois de juin, et il s'est précipité vers, il y avait un coin poupée, il y avait une table à repasser avec un petit fer à repasser. Il s'est
d'accord.
précipité là, et il était ravi de repasser le linge. Et là, il y a un autre garçon qui entraînait, vient avec lui et trouvait ça génial, et la maman d'à côté qui dit à l'autre garçon, mais enfin, t'es un garçon, tu vas pas faire leur passage. Et tu vois, comme après on construit.
Ouais, c'est du paraître, c'est du. Oui.
Et après on construit chez cet enfant ce qu'il intègre, c'est ah ben moi je suis un garçon, je fais pas le repassage.
Et ton fils ne t'a pas demandé par hasard pourquoi la dame elle a dit ça
Non,
genre,
je pense qu'il a pas entendu.
Il a pas fait gaffe, mais voilà, ça pourrait poser des problèmes même aux autres enfants du coup. Enfin, tu vois.
Mais oui, parce que du coup, tu vois.
Alors,
ce qui est compliqué, c'est de gérer aussi les croyances individuelles de chacun. Mais j'invite chacun à réfléchir sur le fait que ça a un vrai impact sur le bien-être. C'est-à-dire que si toi, tu as envie de faire de la danse, Et qu'on t'en empêche.
Je pense que je roulerai beaucoup, ou alors je m'enfonce au milieu. Tu vois, mais bon, non, mais je te comprends.
Peut-être pas un très bon exemple pour toi.
C'est mais, gentil, ça. Mais,
imaginons que t'aies très envie de faire de la danse et que tu en sois systématiquement empêché et qu'on te dévalorise parce que tu as envie de faire de la danse. Oh, mais t'es nue, mais allez, la danse, c'est pas pour les garçons. Mm-hmm. Tu vas te sentir mal à un moment donné parce que tu vas être tiraillé entre ce truc qui te fait vraiment envie et ce retour négatif.
Ben oui, oui. C'est vrai.
Et donc c'est plus pour un bien-être général, on va dire, que il ne s'agit surtout pas d'imposer aux garçons de faire de la danse et aux filles
de faire
des activités.
Il ne faut pas aller dans les extrêmes, hein, non
voilà.
plus.
Parce que c'est souvent ça qui pose problème.
Parce que là, c'est les extrêmes actuellement. Il faudrait éviter d'aller dans l'extrême, l'autre extrême.
Mais alors, les extrêmes, tu sais, il y a eu toute cette polémique autour du genre, de l'égalité à l'école et tout ça.
Avec
et
le cartable bleu, le cartable rose offert par la ville de...
Comme on arrive à midi, on va conclure, mais je vais conclure là-dessus, justement. Mais il y a eu beaucoup d'informations fausses qui ont été données, notamment sur le fait qu'on allait obliger les garçons à porter des jupes ou des trucs comme ça. C'est absolument
c'est complètement
faux. L'idée de l'égalité... c'est de simplement dire aux enfants, si vous avez envie de jouer à la poupée, vous pouvez le faire. Si vous avez envie de jouer au voiture, vous pouvez le faire. Ouais. Si vous avez envie de faire des sciences, vous pouvez le faire. Et
alors, le problème,
pas de problème,
c'est que si l'enfant a envie de porter une jupe, par exemple, c'est un garçon, il veut porter une jupe, il va à l'école avec une jupe, effectivement, ça posera des problèmes. Parce que la majorité des gens ne pensent pas comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Et là, je comprends aussi...
Mais tu sais que les enfants sont...
C'est réticent.
Les enfants sont assez forts pour assumer leurs propres décisions. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'ai une amie, une fois comme ça, elle m'a dit, son fils, il avait acheté des bottes en caoutchouc et il avait choisi rose. Et elle m'a dit, j'ai peur qu'à l'école, il se fasse moquer et tout. Et elle lui en a parlé. Elle lui a dit, ben voilà, je comprends, je suis super contente que j'ai choisi des bottes roses. Moi, je trouve ça génial. Elle dit, par contre, j'ai un peu peur que tu te fasses moquer. Et le garçon lui a dit,
ça peut faire sourire, mais
c'est pas
vrai,
grave.
Quoi,
c'est pas grave. Il a assumé. Il est allé à l'école avec et il s'est pas fait moquer, justement parce qu'il assumait totalement son choix.
Enfin, là, c'est bien. C'est pas que c'est bien ou pas bien, mais c'est vrai.
Mais
c'est...
il aurait pu aussi subir un peu des moqueries et du coup renoncer.
Il a peut-être subi un peu de moqueries. Il a peut-être pas dit toute la vérité aussi.
Mais
il
aurait pu aussi renoncer et dire, bah non, finalement, tu vois, je l'aimais plus. Bon, il y a une partie, effectivement, on s'intègre à son contexte social. Donc ben voilà. Ouais. Mais l'idée que c'est possible, c'est quand même
intéressant. Ça laisse présager plein de choses.
On va finir sur le rose et le bleu. Est-ce que tu sais qu'il y a une centaine d'années, le bleu était pour les filles et le rose pour les garçons?
D'accord, bah, je savais pas du tout.
Donc tu vois comme quoi c'est des tas de codes culturels construits. En fait, les garçons étaient habillés en rouge, mais comme ça se délavait au lavage, c'était rose.
Ça
et donc voilà,
rose.
On mettait du bleu aux filles parce que c'était la couleur de Marie.
D'accord. C'est bien ça.
T'as appris.
Bonne info. Voilà pourquoi j'aime bien cette couleur.
Bon.
Et le bleu également.
Écoute, on est en train de dépasser.
Oui, de 4 minutes
c'est
ici.
Ça, je me dépêche. Donc, on a parlé du site de Cécile qui est Féminin Business où il y a plein de choses. Il y a le blog de Claire et Galimère. Donc, vous tapez Galimère, E-G-A-L-I-M-E-R-E. Il y a l'association Maman Travail aussi qui est très intéressante. Donc, mamantravail.fr,
d'accord,
tout accroché. C'est le site de Marlène Schiappa. Il y a... donc, Cécile nous a recommandé un grand nombre de liens sur Objectif Égalité ONICEP. Donc là, c'est pour l'orientation scolaire. Un document aussi sur métiers en tout genre qui est super intéressant. Sur mademoiselle.com, un article sur les stéréotypes de genre sont dangereux pour la santé, ce que je disais tout à l'heure.
C'est contradictoire d'ailleurs ça. Mademoiselle.com.
Ouais, c'est un site féministe, mademoiselle.com.
Bah oui, non, mais c'est vrai finalement.
Voilà. Il y a un rapport sur l'égalité entre filles et garçons sur le site du gouvernement. C'est pareil, je vous mettrai tous les liens. Oui. Dans les livres, sur le travail, il y a Lean Out de Sheri Sandberg. Donc là aussi, c'est Cécile qui nous l'a recommandé. Être femme au travail, ce qu'il faut savoir pour réussir, mais qu'on ne vous dit pas, de Anne-Cécile Sarfati. Voilà, il y a plein de choses. Sur, je vous recommande à nouveau le fameux « Que veulent les femmes » de Daniel Bergner pour déconstruire un peu les stéréotypes hommes-femmes sur la sexualité dans le couple. Et puis, il y a des tas de guides différents.
Tu nous mettras tout ça en ligne, bien sûr.
Je vous mettrai tout ça en ligne.
Ah ben, ça me fait plaisir. Et je pense que je vais en lire, tu vois, et je lis jamais.
Génial. Bon, voilà, je suis désolée d'avoir dépassé, mais
c'est
il y
pas
avait
grave,
beaucoup,
Sandrine.
Beaucoup de choses.
C'était
à
très
dire.
Intéressant, en tout cas. Merci. On se retrouve le mois prochain.
Oui.
Fin du mois, comme d'habitude, le dernier lundi de tous les mois.
Tu sais,
ce sera donc.
Je ne me souviens plus du thème de l'émission. Je vais chercher.
On le rappellera sur Internet
Exactement.
Également. Il n'y a aucun souci. On rappelle juste une petite chose, ta conférence prévu à El Mondo.
Ah oui. oui, oh là là, on a
oui,
oublié.
Le 10 mars, donc le mardi 10 mars, à, alors c'est le soir.
Le soir, vers 19h, je pense, mais on confirmera voilà. l'horaire.
Vous pouvez
c'est un
commencer
café
à arriver
philo.
Vers 19h.
C'est
voilà.
un café philo.
Et ça, c'est super, ça.
Sur les thèmes des limites à la liberté, point d'interrogation.
Voilà.
Voilà, et donc on va échanger tous ensemble.
Est-ce que par contre, ça vous gêne d'être filmé? Si oui, vous nous répondez, vous nous envoyez un petit message en disant que oui, ça vous gêne. Et dans ce cas-là, vous ne serez pas filmé, vous nous donnerez votre nom à l'arrivée, il n'y a pas de problème, okay. tout simplement.
Et puis, je vous donne rendez-vous sur la page Facebook parce que je vais organiser un petit concours pour inviter une personne avec moi, justement, chez
D'accord.
El Mundo, à Artemar. Voilà. Mais vous aurez les infos sur la page Facebook. Alors, juste, j'ai retrouvé, la prochaine émission a lieu le 30 mars et elle a pour thème éduquer sans fesser.
Éduquer sans fesser, ah d'accord.
Parce qu'en
ah
fait,
ça,
le...
je veux bien écouter moi aussi.
Voilà, le 30 avril, on a la journée de la non-violence éducative.
D'accord.
Mais pour l'émission du 27 avril, on a déjà le thème de l'accouchement physiologique, parce qu'il y a la semaine mondiale des sages-femmes, enfin, ou la journée mondiale des sages-femmes,
ouais.
bref, avec Florence Dubost. Donc le 30 mars, on fera ça, éduquer sans fesser.
D'accord, eh ben, il n'y a pas de problème. On se retrouve donc le 30 mars pour cette émission entre nous. Merci Sandrine, bonne journée à toi et bonne semaine.
Bonne journée à tous.
Bye bye.
Au revoir Olivier.
9h. 11h, entre nous, Sandrine Donzel sur Bugé Radio.